30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française.
Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellata et Thomas Barbazan.
Carte d'identité, carte de séjour.
Bonjour.
Bienvenue aux 30 Glorieuses, mesdames et messieurs, un podcast de d'une insolence hors norme avec une armée de fous furieux. Eh oui, mesdames et messieurs, un podcast qui fait rire en secret, comme durant la prohibition. On nous écoute sous le manteau et c'est payant, 5 euros. Quelque chose de magnifique se passe tous les jours dans ce podcast, des rencontres humaines, des échanges intéressants, des vannes d'un autre monde qui ferait rougir un humoriste de France Inter. Et pour m'accompagner, très certainement, l'homme le plus marrant de France, Thomas Barbazan.
Bonjour.
Jamais on a eu ça.
Bonjour. Ah mais vous riez pas, je croyais que j'étais, tout ce que je disais c'était
marrant. Non, ça va venir, ça va venir.
Mais je ne serai rien sans mon frère Yacine Bellata.
Thomas,
20
Thomas
ans, 20 ans de collaboration.
Absolument, tu multiplies les millions de vues sur les réseaux sociaux. On a été shadowban de TikTok, tellement on a fait péter le score. Donc là, vraiment, c'est
les gens
chinois.
Chialé,
bref, un morceau quasiment tous les jours. On a levé le pied parce que vous avez beaucoup pleuré hier. Regardez même mon canal lacrylien. Et il est bouché.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai pleuré que d'un œil.
Après le Panari, t'as
quoi? C'est Dieu qui décide.
Non, c'est
moi.
La vieillesse.
Je ne suis qu'un élément d'Allah. Meilleur lancement.
Ok.
Les 30 Glorieuses.
C'est chaud de commencer, je ne suis qu'un élément d'Allah.
Bah écoute, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que passé 40 ans, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Hein.
On a des nouvelles des Moldaves?
Bonjour Seb.
Du commanditaire surtout.
C'est un russe.
Le tiers.
Ah bon? Ouais, c'est un russe.
On a trouvé
ça. Ils ont reçu un PayPal de Russie.
Mais attends, russe côté Tchétchène, côté Daghestan.
C'est
tout
le problème
ça,
de ce pays. Ouais. Ils ont que des oufs.
Ouais.
Par département, quoi.
Partout, quoi.
Thomas, non, bah écoute, hein, bah, du coup, Darmanin, il est dans la mouise. Hein. Nous sommes plusieurs encore à demander.
Il y a un jour où il fait pas de conneries, lui, en ce moment.
La tempête Benzema.
Ça va, c'est pas grave.
Voilà, hier.
Il y a un monsieur qui est tombé de son balcon, là.
Ah bon?
Il fermait ses volets. Rafale. Non, mais c'est pas drôle.
Charlotte est morte, c'est très, très grave.
Il fermait ses volets, miskin. Enfin, le pauvre, en français, ouais. Pardon. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la tempête a ramené le petit Émile. Non, c'est pas vrai.
Meilleur van. Très gaulerie. Ça serait Romain ou pas?
Imagine.
Qu'il arrive.
C'était un aigle.
L'aigle. Bon, bah, c'est pire que le mec des volets. Hein. Il est mort, le gars. Hein.
Alors, ah bon?
Des volets.
Alors, j'ai lu, il est tombé de son balcon, mais je sais pas de quel étage.
Je sais pas, ça soufflait fort hier. Hein.
Ouais, aujourd'hui aussi, ouais, ouais. Hein? Là, nous, on a eu juste les bribes, hein. 50, 60, 80.
C'est rien, ça.
Nous, c'est rien, nous. Non, la tempête de 99, tout le monde reparle de ça, tu nous rappelles? C'est déjà 24 ans, dis donc.
Putain, c'est vrai, qu'est-ce que c'était gaulerie, cette tempête.
Et moi, les tuiles par le toit et tout.
Bah, excuse-moi d'être pauvre, moi, il n'y avait pas de tuiles. Il y avait juste un voisin du dessus qui disait « Ah, ça soufflait fort
!» Moi, j'étais sous les toits et les tuiles
d'un,
tombé.
D'un arbre qui ouais. était tombé et tout.
Attention.
Bon, bah, si tu commences à faire des jeux de mots arabe, arbre.
Mais non,
mais Thomas, on va. Mais t'es moldave ou pas?
Non. Aucun lien.
Qui connaît des moldaves, là?
Oui.
Personne, hein?
Non, personne.
On peut faire les vannes qu'on veut, je te jure, il va rien nous arriver.
Si
là.
Vous connaissez un moldave, envoyez-nous un message.
Voilà. Moi, si vous voyez un moldave avec un pochoir.
Oui, voilà, exactement. Parce qu'ils ont été filmés, en plus.
Un arabe avec un pochoir. Très bonne vanne d'un auditeur qui m'a dit « Si, les Arabes utilisent des pochoirs pour les gâteaux dans les mariages. » C'est vrai ou pas? Avec le sucre?
C'est vrai que c'est... Ça confirme.
Ça confirme. Ouais, Thomas. Bon,
les petites pâtissières rebeux d'Instagram, là. Non, pardon,
Oui. Ourti diabète, là. Voilà. Les femmes voilées qui font des gâteaux, mais...
Ouais, j'en ai vu une.
C'était pas mieux l'époque où les femmes voilées restaient à la cuisine sans commencer à dire Selem, comment faire un cake aux fruits, subhanallah. Oh là. Oh là 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 là. Non, mais...
Le subhanallah cake.
Comment faire un subhanallah cake? Il vous faut un peu de levure, un peu de fruits et 100 grammes d'Allah. Voilà.
Le Paris-Bagdad qui remplace le Paris-Brest. Très bon gâteau.
Arrête!
Ne frappe pas pour
non, les... sursis. Ouais.
Voilà.
Psy la semaine prochaine. Tac, tac.
Bien.
Non, je suis prêt, je suis en réinsertion là.
Ok.
Tant que moi, il y a Benzema, qui est frère musulman, ça me fait des vacances.
C'est vrai qu'avant, j'étais le seul, hein, mais là, on partage le titre. Hein. Ouais. Franchement, je suis d'accord avec Darmanin, très suspect. Alors, là, il a fait une photo, il a deux couteaux, un aigle.
La dernière fois, il a marqué, tous ses buts sont en direction de la Mecque.
Bien sûr.
Toujours.
C'est vrai. J'aime beaucoup parce que ces vannes-là, si j'étais pas là, tu serais traité de raciste.
Oui.
Et le fait que je sois là, je suis la kryptonite.
Ces vannes-là, si j'étais pas là, tu serais traité d'islamiste.
T'es en forme là aujourd'hui. C'est hier, je t'ai mis à l'amende. Je sentais bien que t'allais faire un gros comeback aujourd'hui.
Quand tu m'as mis à l'amende.
Hier, pour le podcast hier. La première demi-heure.
Ah, ben bah, ça va.
Regarde.
Détends-toi.
Bah, franchement, je soufflais aussi fort que la tempête.
On n'est pas dans un match. Hein,
quoi? On n'est pas en concurrence?
Bah non.
Je tiens à dire que Farid a fait un très bon stand-up. On applaudit Farid.
C'est vrai. Quoi, Charlotte?
Oui, si,
j'ai
c'est
pas
bien.
Reposté, mais j'ai bien aimé.
Non, moi j'ai reposté. C'est moi, le seul problème, c'est qu'il s'habille comme dans Mad Max. Et ça me dégoûte. Ouais. Non, mais t'as vu, il a. Ouais. Mais sinon, c'est bien.
C'est vrai, il est de plus en
j'ai
plus...
reçu un texto de Jason Brokers qui m'a dit moi aussi, fin de carrière, dimanche, Inch'Allah. Et moi, je rentre dans l'arène. Quand Charlotte samedi mon pote. 30
attention.
Minutes de stand-up. Sur les juifs, sur bah Israël, ouais. Palestine. Oh là là, on va le chier de rire.
Là, le mec a créé un space. Vous connaissez les spaces sur Twitter?
Bien sûr.
Fan d'Israël contre fan de Palestine. Lui, c'est le meilleur. J'aurais adoré assister à ce space.
Moi, j'aimerais qu'on fasse passer une loi pour retirer Twitter aux Arabes et aux Noirs. On ne sait pas se servir de ce réseau social.
Je balance son nom, il s'appelle Staline 94. Je sais pas qui est ce monsieur, il a 20 000 followers, mais quand j'ai vu son titre de space avec des gants de boxe, avec marqué pro-palestinien versus, comme un match de boxe.
Mais lui, il doit faire que des débats. Pourquoi Allah, c'est le meilleur? Oh là là, que des...
Allah versus...
versus le reste du monde.
Les autres.
Non, mais frère, c'est Rama. Hein. On vit une époque incroyable.
On vit une époque où tout est...
Tout est permis,
voilà,
franchement.
Tout est permis.
Les Moldaves. non mais frère, non mais on est arrêté de rigoler.
C'est un message pour eux.
Mais non, bah rien là, franchement, vous allez payer cher. Hein.
On les a même pas.
Mais je vois très bien les sujets. On a trouvé une Moldave qui veut s'intégrer, qui joue du violon. Ils vont la mettre là à France Télé en disant on est bien d'accord, vous n'avez rien à voir avec le gang des pochoirs. Oh là là, putain. On les a appelés le gang des pochoirs ou c'est moi qui ai dégainé le premier?
Non, c'est bien le gang des pochoirs.
Hein, pochoir gang.
Pochoir gang, vous aimez bien.
Mais je te l'ai dit dès le début, quand j'ai vu le bleu là.
Ouais.
J'ai dit, c'est un bleu recherché, ça. Nous, jamais les Arabes, on aurait fait ça. Des tags, juifs avec un G. Tanana, on aurait fait des trucs de ouf.
C'est les vannes d'hier, mais après, si tu peux recycler. Mais...
Elle est tellement drôle. Ça fait deux jours de suite qu'elles font. Non, mais Thomas, je te dis.
Là, ils ont pris ça même. J'ai regardé CNews tout à l'heure. Fond de plateau, décor avec les étoiles, là. Ils ont fait un décor du plateau. Les étoiles bleues, là. Les étoiles.
Je voulais poser la question.
David.
Quelle étoile est autorisée? Quelle étoile est interdite? Parce que peut-être les jeunes de banlieue Golemont, ils ne savent pas différencier.
C'est vrai.
Tu vois, les étoiles de Chérif, étoiles du Maroc.
Oui.
L'étoile
du Maroc, ce n'est pas l'étoile de David? Non.
Non, ça n'a rien à voir.
D'accord. Mais c'est une étoile, quoi.
Tape étoile juif, s'il te plaît, Seb. Pour voir lesquelles étoiles on n'a pas le droit de dessiner.
Western,
j'ai une idée vers quoi ça va m'amener.
C'est sûr que...
Étoile juive, oui, a priori, elle va être jaune.
Je pense que pour une fois, vraiment, tu vas être recherché par la police.
Je tape juste étoile, ça me met direct étoile de David, déjà, tu vois, dans la recherche Google.
C'est vrai que c'est l'étoile...
C'est l'étoile la plus cotée, quoi.
Ouais,
qui a le plus
non,
de besoin.
Pas cotée, mais arrête.
Ah bon?
Mais
non, mais sur le marché...
Fais attention, là, tu marches sur des... Sur des clous. Alors reviens.
Tu as vu les ventes des drapeaux sur Amazon, hein? Drapeau Israël,
Palestine.
Drapeau Palestine.
Ouais, on a gagné ça.
Oui, je crois que c'est plus vendu.
Ça, je crois que c'est.
Enfin, quand tu dis on, moi, je sais pas, je suis pas.
Oh là là, t'es pas marié avec l'ennemi, toi? Ta femme, elle est de quelle origine? Tu veux que je parle de ta couette aux couleurs de la Palestine? Ça serait. Est-ce que, par exemple, si ton salon, t'as du rouge, du blanc? Et du vert et un peu de noir. Est-ce que c'est un salon palestinien? Sans faire exprès.
C'est des couleurs.
Parce que tu sais, les fachos, ils voient des trucs que même nous, on ressent pas.
Non, mais ça...
Allahu Akbar.
Oui.
On l'utilise fréquemment. Notamment quand on se lève pour s'asseoir sur un canapé. La, 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 la. C'est des cris comme ça. Ouais. Et d'un coup, ils ont dit, ouais, ça veut dire. Et là, je voyais des blancs définir Allahu Akbar. Enfin, ils disent pas Allahu Akbar, ils disent Al-Akbar.
Al-Akbar.
C'est une phrase. Ils ont du mal à le dire.
Terroriste.
Allah ou Akbar. Okay. Vas-y.
Allah ou Akbar. Mais... Non, c'est pas ça. Je répète.
Tu te débrouilles pas mal en Allahu Akbar.
Ah, bah écoute.
Bientôt au bac français, de toute manière, ça sera une épreuve. Hein.
Ouais, bientôt DJ chelou tout en arabe.
Non, et Allahu Akbar, ça veut dire. Voilà.
Dieu est grand.
Dieu est grand, bah bien sûr. Ça, c'est la. Comment dire? C'est la traduction littérale.
Okay.
Mais dorénavant, les journalistes blancs racistes veulent lui donner une autre définition.
Okay.
En disant, oui, à République, ils ont crié Allahu Akbar, donc ça veut dire on est en guerre. Pas du tout.
Ouais.
Bah, par exemple, quand je recevais mon bulletin, j'arrivais à l'intercepter, quand j'étais en troisième, et que mon daron, quand je l'ouvrais, je dis Allahu Akbar, je l'attrapais avant lui, tu vois. C'était Allahu Akbar pour remercier Dieu d'avoir croisé mon facteur. Seb, on en est où?
Bah, il n'y a pas d'étoile interdite. Hein. Je regardais là. Non, tu vois, non.
Moi, Allahu Akbar, je l'ai trouvé. Je l'ai
j'ai
entendu.
Même tapé étoile. Excuse-moi, Thomas. Oui. J'ai même tapé étoile juive interdite. Il n'y a que dalle. Non, non. Okay, rien n'est interdit en termes d'étoiles. Voilà.
Ils l'ont sorti à l'ONU. Hein.
De ouais.
La délégation israélienne.
Ah oui.
Bah. Tac, tac, boum. Ils ont sorti l'étoile. Oh là là.
Ouais, je me souviens qu'à l'époque, ils avaient dénoncé les musulmans qui portaient le croissant vert, tu te rappelles, dans la manif.
Ça, c'est Inch'Allah en février.
Parce qu'ils ont dit, oui, ils ne peuvent pas comparer à la Shoah. Bah,
moi, j'en ai marre de la Shoah.
Là non plus. Hein,
oh là là, ils ont mis Hitler. Il a une cote, lui, là, en ce moment.
Bah, tout
les,
est
deux, les deux, ils se l'approprient.
Mais tout part de là. Tout part de lui. Encore.
C'est vrai, moi. Enfin, l'histoire occidentale, ça part de lui. Je rappelle qu'il y a eu 400 ans d'esclavage avant avec des Noirs.
L'état
ça n'a affecté personne. Il n'y a pas, en plus, de Hitler... des Noirs, hein. Si, Napoléon. Ah bah oui, peu, hein.
Il y a eu plusieurs.
Me demande pas de taper Hitler des Noirs, s'il te plaît.
Je pense.
Black Hitler.
Il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs étoiles des Noirs, hein, je crois.
C'est un Marvel, ça, non?
Étoiles des Noirs. Quoi, étoiles des Noirs. Tu me fais dire n'importe quoi. Il y a eu plusieurs Hitler des Noirs. Là, j'ai vu l'histoire du roi Léopold. Là.
Bien sûr, le Belge.
Oh là là.
Mais lui, c'est pas le Hitler des Noirs. C'est Hitler de Congolais.
Congolais, mais
c'est pas la même chose.
Oui, mais il a tué plus de Noirs que Hitler de Juifs.
C'est le plus gros génocide.
Ah oui.
Tape.
10 millions.
Classement génocide.
Non. Seb, il va vraiment être un jour interpellé en pleine émission.
Il n'y a pas de classement.
Yacine, il va dire, c'est pour moi, monsieur l'agent. Non, non, c'est pour l'homme derrière les platines. Là.
La Shoah. Le plus gros
6 millions.
Génocide. J'ai mis plus gros génocide, donc je suis tombé.
Je pense que le classement, n'y voyez aucune forme de blague, mais je pense que le... Un, je pense la quantité, ça doit être Shoah. Je pense qu'Arménie, Congo.
Tu veux vraiment que je tape classement génocide?
Les Indiens?
Oui. Et Rwanda. Mais Rwanda.
Génocide classement.
Tape Topito, ils n'ont pas fait un classement. Ils font des classements pour tout. Ils ont
c'est
pas fait
connard. Les 5 meilleurs génocides. Selon Walidia, numéro 4. Non, je rigole. Walidia, bientôt viré, hein, je t'annonce.
Il a fait le chairman. Là,
hein? J'ai lancé une mode avec le Sherman.
Ouais. Vas-y, imite-le.
Hein? Frère Yacine, c'est incroyable. On est là, qu'est-ce que tu penses du Coran?
Non, mélange de Sherman et Jamil.
Hein?
Dans ton imitation.
Jamil viré aussi, dans une semaine.
Bah oui, il a soutenu Guillaume Meurice.
Ouais, frère, depuis tout à l'heure, je like les stories où il dit il va se faire virer, on va chialer de rire. Jamil, t'es pas pris ici. Hein.
Guillaume Meurice, il va être remplacé par un juif. Hein. T'es courant?
Popek.
Non, Guillaume Maurice.
Ah, Guillaume Maurice. C'est incroyable. Hein? Vous connaissez Mahmoud Abbas? C'est une sorte de nazi sans prépuce. Vas-y, vas-y. Alors?
Au niveau des chiffres, alors j'ai pas de classement, mais j'arrive à avoir un je suis en train d'essayer de moi le faire
il est
de tête.
Au bout de sa vie, Seb.
Non, non, pas du tout. Mais c'est
au bout des recherches.
Il y en a eu beaucoup quand même des génocides. Hein, quand
ouais.
Ah, pas selon CNews.
Donc entre 5 et 6 millions quand même à la Shoah. Donc c'est quand même.
Ça, on savait.
C'est 6 millions.
Ça, on l'a appris.
Vas-y.
Entre 5 et 6 et ensuite te faire un classement, c'est compliqué. Ce que je peux te dire, c'est qu'en Namibie.
Oh ouh. On les connaît pas bien ces gens-là.
C'est à côté de l'Afrique du Sud.
C'est qui les Namibiens?
La banlieue de
l'Afrique
du
Sud.
Ah
non, j'ai pas de chiffre. Non, c'est les Tziganes. Les Tziganes, j'en ai.
Les Khmers.
500 000.
Ah, j'ai oublié.
500 000, ouais.
Les Khmers rouges. Pas mal, hein.
Rouge. Il y avait d'autres. Non, il y avait les Khmers rouges.
Non, je pense que celui dont on parle le plus, Farid a fait la vanne, donc je tomberai pas tout seul. C'est que je pense que celui de la Shoah, il est encore plus traumatisant parce qu'il s'est fait sur notre territoire.
Ah oui, il est chez
Arménie, un million quand même.
Oui, Arménie, un million. Et les Turcs, ils te diraient une douzaine de personnes. Ils tiennent leurs chiffres.
Ça dépend des sources. C'est les... Sur Wikipédia.
Non, mais ce qui est fou, c'est que là, justement, on en parle là. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne mesurent pas le terme de génocide. C'est pour ça, pardon, hein, je vous le dis juste, que la terminologie employée là pour Gaza, génocide, ça provoque un choc. Mais les amis, un génocide, c'est pas un vain mot.
Oui.
Et j'ai l'impression, en tout cas, je vous donne le nombre de morts. Hein, on va atteindre les 12 000 en Palestine, c'est beaucoup. Mais là, typiquement...
Tu parlais des Khmer, excuse-moi, hein, je lis en même temps. Tu parlais des Khmer, 1,7 à 2 millions de Cambodgiens. Pas mal quand même.
Merci Seb.
Le Rwanda,
j'ai une petite préférence pour celui-là.
Techniquement, c'est pas mal.
Non, mais par contre, par rapport au ratio du nombre total d'habitants, enfin, c'était sur 7,5 millions, donc tu vois quand même, ça a pas mal décimé quand même.
Et sur combien de temps?
De 75 à 79, 4 ans.
4 ans, ouais.
Et le Rwanda, vu que je suis dessus, 500 000 à 1 million de personnes.
Oui, ce que je disais, c'est pas... le Rwanda, c'est... Enfin, là, il y a beaucoup de morts. Hein. Mm. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire... Pardon ? Un peu de temps, il y a la machette. D'accord, ouais. T'es directeur artistique, toi.
Non, mais, génocidologue.
En quelques semaines, effectivement. Hein, en quelques semaines, ouais.
Mais c'est
le
vrai
Rwanda, c'est en quelques semaines.
En quelques semaines, ouais.
Ça... Et, pardon, c'est lié à la radio. Puisque comment les Rwandais ont basculé, Radio Mille Collines, où ils donnaient le nom des gens à exécuter.
À assassiner, ouais.
Ça, c'est un moment...
Si vous faisiez ça dans les Trente Glorieuses, ça serait moche.
Hein. Mais c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par la radio. Mm. C'est un média qui peut libérer un pays, comme...
Oui, Radio Londres.
Voilà, Radio Londres. Et de l'autre côté, qui peut créer des choses absolument atroces. Mm. Non, ça part d'une semi-blague, mais ce que je suis en train de te dire, j'espère que ça va instruire nos auditrices et nos auditeurs, les terminologies que vous employez sur les réseaux sociaux, faites attention, parce qu'on bascule dans le jeu de concurrence mémorielle, qui est, pour moi, absolument contre-productif.
Mais en plus, c'est les historiens qui doivent dire ça. Alors, on est dans l'actualité. On ne peut pas juger aujourd'hui si c'est un génocide. Là, ils jugent du 7 octobre crime de guerre, crime terroriste. Tu vois, les terminologies font des débats sans arrêt là-dessus.
Moi, je me suis imposé... Je ne parle pas avec les gens de confession juive. J'évite. Je l'ai dit ici. J'envoie des condoléances. Mais je pense qu'ils sont en SPT. Syndrome post-traumatique,
oui.
Et que de toute manière on va arriver très vite à une bifurcation qui sera trop agressive, trop violente, et il faut les laisser comme un accidenté de la route. Mais là, c'est des accidentés de l'histoire.
Ouais, le problème, c'est qu'ils le font devant nous, sous nos yeux, sous des caméras. Et que...
Non, pas, mais c'est pas que des juifs qui prennent la parole. Le problème, c'est tout.
Non, je te parle de, par exemple, la vidéo qu'on a vue, peut-être vous l'avez vue aussi sur LCI. Ils montrent des chorégraphies de soldats de Tsahal,
ouais.
Et derrière, ils rigolent. Ils sont hilar.
Non, mais Eli Chouraki,
oui.
L'invité, c'est, pour moi, c'est toi qui pose le... C'est toi qui en faute. C'est pas Chouraki. Chouraki, il dit que de la merde.
C'est oui, mais ça ressemble à un syndrome post-traumatique. Le mec rigole. Alors qu'on
là,
est dans
ce que j'ai posté aujourd'hui, où c'est la première fois qu'LCI montrait la parole palestinienne qui disait « Ils ont bombardé, c'est pas normal. » Et qu'ils reviennent sur le plateau. Et que Eli Chouraki, devant Aniva, femme de Jean-Jacques Bourdin. Bon, on va pas dire qui est le mari de qui, mais en tout cas, grande reporter, avant qu'elle soit même avec Jean-Jacques Bourdin, qui rigole, parce qu'Eli Chouraki dit « Ah, c'est des bons communicants
oui. !»
Et l'animatrice, vous regarderez, je pense qu'elle vient d'arriver en télé, parce qu'elle se dit « Si je le reprends, je vais perdre ma place. »
Et c'est complètement irrationnel, ce que tu disais tout à l'heure dans le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que les gens n'ont plus du tout de raison, en fait. Mais même à la télé, c'est-à-dire que ce soit dans la vie de tous les jours ou même ici, dans cette salle, s'il y a des gens qui sont traumatisés, qui peuvent aller trop loin, comme Walid, tu sais, qui a l'air traumatisé personnellement aussi, qui disent des mots qui dépassent un peu la pensée et tout, on peut l'entendre et on peut essayer de le comprendre. Mais quand c'est fait de façon raisonnée, préparée à la télé, c'est dur.
La télé, c'est fini. C'est ça qu'on doit se dire de cette période dorénavant. C'est fini. La télévision, tu vois, Cyril Hanouna, syndrome post-traumatique.
Ouais, voilà,
finir par dire si vous regardez pas mon émission, c'est que vous êtes antisémite, pardon, c'est un chier de rire. Non mais là franchement, c'est tellement grave que c'est gonnerie. Moi si j'avais été sur le plateau, bon là j'aurais eu un fou rire. J'aurais pleuré de rire. S'il avait dit, il faut me regarder. Je le vois en plus dans sa tête, le petit Cyril dans sa tête qui veut dire Cyril, dis pas ça. Dis pas ça, c'est déjà chaud. Et là il dit si vous me regardez pas. Et il a un talent, c'est qu'à chaque fois il tombe pas tout seul. Il dit on est d'accord pour dire que c'est de l'antisémitisme. Et tous les suceurs, oui, il n'y en a aucun qui dit, mais t'es ma boule, toi.
autre dinguerie, parce que là aujourd'hui on pourrait faire des multi-idées complexes tous les jours. Geoffroy Lejeune qui dit en face de Karim Zeribi,
ouais.
Les gens qui disent les trucs antisémites dans le métro, c'est des musulmans, alors que leurs visages sont floutés, qu'on connaît pas leur nom, etc. Et Zeribi lui dit, mais on connaît pas leur prénom, pourquoi vous affirmez ? Je l'affirme. Donc folie, lui c'est mais... pas syndrome post-traumatique, parce que c'est un facho, c'est pas un juif, ou c'est, il est pas dans le...
Moi je me suis embrouillé ce midi dans un restaurant dans l'8ème.
Ah.
J'étais dans un restaurant où il y avait très peu de couverts, une trentaine, un resto chic. Et il y a quatre personnes qui sont rentrées, je peux le dire ici, de confession juive. Mmh. Et pendant que la personne avec qui j'étais est allée aux toilettes, ils m'ont regardé droit dans les yeux. J'avais vu le eye contact.
D'où ta rougeur.
Et j'ai lu sur leurs lèvres, ils disaient, c'est comme lui là, qui est avec les terroristes.
Ah ouais.
Et je lui ai dit, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit, non, je lui ai dit, est-ce que c'est à moi que tu parles? Donc le mec est devenu tout rouge, mais il faut que tu imagines un restaurant de 30 couverts. Donc c'était à chialer de rire, le restaurant il s'est arrêté. J'ai dit, mange ta salade, c'est mieux pour toi. Et après, voilà, il y avait un rebeu qui était là. Les rebeux, on est en wifi. Embrouille 1. Il est venu, il m'a dit, il y a une embrouille. J'ai dit, non, va t'asseoir, frangin, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me suis dit, tu vois, s'ils écoutent le podcast d'une manière ou d'une autre, envoyez-moi un message sur Instagram et parle-moi comme un bonhomme. Par contre, tu fais pas le malin, vous êtes quatre. Et tu me traites de terroriste, et après, genre, je mange ma salade. Dorénavant, c'est ça qui nous attend. Et tu sais, j'avais pas mis les pieds dans le 8ème depuis le 7 octobre. Parce que malheureusement, je connais ma notoriété et tout. Je sais qu'il y a des quartiers de Paris, si j'y vais, j'ai pas peur d'y aller. Mais je sais qu'il va y avoir.
Petite provoque, quoi.
Ouais, une provoque ou une remarque. Mmh. Et après, bon, dans les journaux, je pense que je suis en page 2 du Parisien.
Bah, c'est toujours toi.
Bélatar, le Hamas sur scène. Ouais. Je vois déjà l'article. Et en plus, c'est pas ça. C'est que, en fait, tu préfères dorénavant jouer à FIFA ou Foot Manager qui arrive, Inch'Allah, lundi, que d'aller à la provocation. Et surtout, encore une fois, je vais pas distribuer les bons et les mauvais points. Nous, tous les jours, on a rendez-vous avec le podcast, on fait un sketch et compagnie. Mais les artistes qui ne s'expriment pas rajoutent du malheur au malheur. Et là, maintenant, je le dis, bon, tout à l'heure, j'ai marché avec l'un de nos associés, les listes dorénavant d'artistes qui ne s'engagent pas,
ouais,
elles commencent à faire mal aux artistes. Ah tu vois, il y a des artistes qui se mangent des coups de pression, mm-hmm, et que vraiment, je pense, ils ne mesurent pas qu'ils peuvent être les grands perdants. Bon, les grands perdants, c'est déjà l'humanité, parce qu'au vu de ce qui se passe des deux côtés. Mais la réalité, c'est qu'en France, il se passe aujourd'hui une espèce d'omerta où les artistes, ils commencent à se dire, j'ai pas parlé au bon moment, si je parle là, ça va paraître opportuniste, si je parle trop, et bah du coup je prends un risque. Prends un risque, c'est pas grave. Mmh. Et tu vois, moi je suis très heureux de monter sur scène samedi pour ça d'ailleurs.
Oui, oui,
bah, on va faire tourner le micro là parce que je vois des nouveaux visages. On va commencer avec toi, cher ami. Bonjour.
Bonjour.
Comment Salut. Tu t'appelles?
Nordine.
Nordine, tu fais quoi dans la vie?
Le cinglé? Non, c'est pas toi.
Non, Nordine, le calme.
Parle bien dans le micro, Nordine.
Ouais, le calme. Je suis ingénieur en informatique.
Tu es déjà D'accord. venu à ce podcast?
Oui, ouais, mais la mémoire que toi.
Rappelle-moi. Oui, mais ouais, non mais.
Au début de l'été.
Au début de
excuse-nous,
l'été.
Excuse-nous, entre-temps, on a croisé la moitié de l'humanité. Tu regardes ce conflit avec quel regard, mon cher Nordine?
Franchement, je vais pas être original. Hein.
Hein si, si, bah, laisse-nous décider. Vas-y.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui te marque le plus?
Je pense qu'il m'a plus marqué, c'est le traitement en France,
ouais,
à mon avis.
Journalistique?
Ouais, journalistique, ouais. La couverture en France. Le fait que si tu prends parti pour un camp, forcément tu passes pour un pro-terroriste ou je sais pas quoi, tu vois. Ça, ouais, ça m'a marqué.
Et t'as l'ambition de...
Non, forcément, enfin, non. Ce qui m'a plus marqué, c'est effectivement ce qui se passe là-bas, tu vois. Je sais pas comment ça va dégénérer, mais
parce qu'il y a que ici qu'on peut, y a qu'ici qu'on peut poser la question. Est-ce que, oh, sincèrement, je vous demande vraiment, est-ce que tu t'intéressais au conflit israélo-palestinien?
Non. Enfin...
Je sais pas si c'est ma question. Non, non, mais t'as répondu. Je te remercie pour ta sincérité.
Avant, j'ai pas suffisamment, en fait, j'ai pas suffisamment de connaissances pour débattre du sujet, tu vois.
Mais là, là, c'est la première fois que t'es autant engagé dedans.
Je suis pas vraiment. Enfin, je m'intéresse à ce qui se passe.
Mais plus que les autres fois.
Ouais, ouais. Bah forcément. Enfin, je pense.
Tu sais qu'il y a déjà eu plus de morts. Hein.
Ouais.
Ouais, ouais. Il y a une année, il y a eu 30 000 morts. Je sais plus combien il y avait de pertes israéliennes. Je vais pas te demander de regarder ça sur Internet, mais il y avait eu 30 000 morts. Là, on est qu'à 12 000 morts. Mais en fait, il y a eu deux fois plus. Et j'ai pas souvenir.
En
que
une
ça
année, en une année. En une année, parce que là, c'est quand même 12 000, 10 000. Enfin,
alors, je vais te donner une stat que j'ai vue tout à l'heure passer qui est effroyable.
En un mois.
En trois semaines,
ouais,
il y a plus eu de morts que sur 584 jours de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Ouais. C'est pour ceux qui veulent une image,
ouais, c'est
de l'atrocité du moment.
C'est parlant. Ouais.
Voilà, voilà ce qui s'est passé. Et voilà, juste ça. Moi, j'irai sur un plateau télé aujourd'hui, ce que je ne ferai plus. Je dirai juste ça, je me lève et je pars. Ça sert à rien de monter, de descendre en 3 semaines. Tous les jours, vous êtes indigné pour l'Ukraine. Peut-être à juste titre. Tu vois, et à juste titre, vous avez demandé un cessez-le-feu, tout ça. Et bien là, en 3 semaines, il y a encore des gens qui te disent « Ouais, mais il faut comprendre la Palestine. » Tu vois, encore tout à l'heure, je voyais un mec que j'aime bien sur les réseaux qui a écrit encore de la merde en disant « Mais on est obligé de tuer des Palestiniens parce que le Hamas se cache dans les maisons. » Mais excuse-moi, ils ne savent pas jouer à cache-cache. Bien sûr qu'ils sont... le Hamas, aujourd'hui, ils sont dans l'endroit le plus dense du monde. Donc, quand tu vois ces images de favelas, c'est pas aussi dense que Gaza. Et donc là, aujourd'hui... J'ai appris que la journaliste qui a diffusé le document de l'armée israélienne qui, sur une réunion qui est sortie, qui a fait un tollé international où il disait expliquer comment ils allaient prendre possession de Gaza. Tu as vu ça?
Oui, oui, oui.
J'ai appris que la journaliste qui faisait ça sur LCI commençait à avoir des problèmes. Ah. Tellement la pression, elle est forte. La nana, elle a juste fait un travail journalistique en disant « Voilà un document, c'est Wikileaks qui l'a sorti d'ailleurs, et qui dit comment l'armée d'Israël, de Tsahal, donc Netanyahou, veut expurger totalement donc les habitants de Gaza pour le projet qu'on appelle le projet Sinaï. C'est-à-dire qu'il y a un projet fantasmé par l'extrême droite de l'extrême droite israélienne, c'est de prendre la population de Gaza et de la mettre
en Égypte.
En Égypte. Et en fait, c'est-à-dire c'est vraiment...
En donnant de l'argent à l'Égypte pour qu'ils s'en occupent.
Mais là, Sissi, là, c'est pas l'impératrice. Hein.
Oui.
Là, je peux te dire que le Sissi d'Égypte, non, mais il n'est pas du tout
funky. Il y a même le premier ministre écossais qui est musulman. Qui a proposé de prendre des Palestiniens chez...
Mais parce que sa famille sont là-bas.
Des Israéliens l'ont entendu d'un bon oreille. On vous les donne, prenez-les tous en Écosse.
Non mais ce qui est fou, c'est que c'est pour ça que tu ne peux pas t'engager pour le gouvernement israélien. Parce que leur ambition, le projet Sinaï, c'est un projet que moi j'avais vu passer il y a quelques années, mais qui était farfelu. Oui. Tout le monde rigolait en disant « mais c'est pas possible ». Et donc là, le problème, c'est quand je parle avec des militants, ils utilisent un champ lexical qui est toujours, j'allais pas dire extrême, mais trop poussif. Épuration ethnique, tout ça. Les amis, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas ça. C'est aux yeux du monde ce qu'est en train de faire Israël. Dorénavant, c'est clair et net. C'est horrible ce que je vais dire. Les 12 000 morts, comme les 1 700 morts israéliens que je mets du bon côté de l'histoire parce que c'est des victimes et qu'elles sont mortes malheureusement par rapport à la folie des hommes, ce qui se passe, c'est que dorénavant, tout le monde regarde ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Donc c'est pour ça, cher ami, t'as pas à t'en vouloir. C'est que là, c'est la première fois que le conflit israélo-palestinien, c'est l'alpha et l'oméga du monde. Oui. C'est-à-dire que là, tu jettes une allumette, ça prend feu. Tu vois. Et franchement, ça, c'était pas le cas avant.
J'ai pas dit que je m'en voulais.
Non, mais ce que je veux dire, ce que je trouve intéressant dans ton propos, c'est de dire, je m'y intéressais à moitié, ce que tu disais tout à l'heure. Quand je te dis, par exemple, qu'il y a eu 30 000 morts et là 12 000, ouais. C'est bien la preuve. Moi, des pro-palestiniens, j'en ai tous les jours au téléphone ces derniers temps. Je viens de raccrocher avec un mec qui revient d'Aman, qui va repartir encore une fois. Ça, c'est des mecs qui sont engagés. Nous, en fait, ils sont persuadés que les rebeux de ce pays et les renois, on est pro-palestiniens, mais la tête de WAM, on est des Français, en fait. T'sais, on subit l'actualité. Un jour, c'est une tornade. Le lendemain, c'est la baïa. Et en fait, on n'est pas engagé sur des sujets. Le musulman en France, il s'engage quand ça le touche personnellement. Si ça le touche pas, il est comme les Français, il est égoïste. Après, t'entends des phrases comme dans les chichas. Ouais, mais c'est pas mon embrouille, frère. Chacun, nanana, t'as vu ?
Après, les médias nous ont obligés, les médias français nous ont obligés tellement, il n'y avait qu'un seul point de vue et qu'on n'avait pas de contre-information quelque part. Nous ont obligés à, pas à nous engager, mais à s'intéresser à d'autres médias, comme sur Internet aujourd'hui, on en parle de temps en temps, mais Post-Blad Blédard, il est devenu le média.
Je fais Post-Blad Blédard vendredi.
D'accord, voilà.
J'ai vu hier, il y avait Ramadan. Donc il prend que les rebeux, voilà, tu sais, vraiment fou furieux. Et moi je fais vendredi 21h.
Bon, des fois il vise pas.
Regardez pas, hein, je connais ni les sourates, ni la situation géopolitique. Je vais juste dire ah ouais c'est chaud.
Non mais effectivement lui tu vois c'est intéressant parce que lui il s'est complètement engagé là-dedans. Il ne parle plus que de ça. Il est à fleur de peau parce que il balance des trucs. C'est pas qu'il vérifie pas, mais il balance toujours des trucs. Des fois il vise pas super juste et tout, mais au moins. T'as un peu une contre-information, tu vois. Et c'est ces médias français qui ont, en donnant, même si on voulait pas s'engager, c'était tellement caricatural ce qu'on a vu qu'on s'est dit...
Mais on s'en fout de la télé, je te jure,
Ouais,
Thomas.
Mais je pense que c'est devenu un peu comme ça.
Je t'ai pas écouté, excuse-moi. Tu parlais de qui?
De quoi ?
Tu parlais de qui en fait là quand tu
dis... Nordine, tu sais où t'es là ou
pas ? Non, mais j'ai fait des essais. J'ai pas entendu le début de la phrase, c'est pour ça en fait.
Carte d'identité !
Vas-y.
J'ai pas entendu le début de.
Post-Bad Blédard, on parlait de Post-Bad Blédard.
Ah, tu suis pas sur les réseaux ? C'est un jeune garçon plein de talent qui a plus d'un million de followers, je crois.
Oui, c'est ça. Il a créé déjà d'autres comptes pour être.
Des comptes de secours.
Ouais, de secours.
Même son compte de secours, il a trois fois le.
Ouais, il a 300 000.
Il a 300 000. Et nous, on a 70 000. Et tous les jours, on doit faire une chanson.
Et toi, tu t'informes via. Juste quel biais du coup maintenant, Nordine ?
En fait, en général, c'est Twitter. En fait, Twitter, ça donne un indice sur un truc qui s'est passé. Du coup, ensuite, tu vérifies. Du coup, tu fais tes recherches. Après ça, en fait,
ce que les oufs, ils pensent des infos. Voilà,
ça, du coup, tu dis, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est passé un truc, tu vas vérifier. Ouais. Du coup. Mais j'ai pas le temps de regarder
les sites.
Il va sur les TT. Il lit gâteau au chocolat. Il se passe quelque chose. Là, il y a un truc avec un gâteau au chocolat.
Mais pour clarifier ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas que. J'ai l'impression que tout le monde a son avis sur la question, sans légitime pour débattre ou donner son avis, tu vois. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances pour être. Pour me sentir légitime pour débattre du sujet face à quelqu'un qui pourrait me répondre, tu vois. Par contre, ce qui est évident, tu vois, ce dont je peux parler, c'est. Enfin, ce qui est évident, même si t'as pas de connaissances sur le sujet, c'est le deux poids, deux mesures, tu vois. Mmh. Surtout en France.
Tu peux pas
choisir un parti sans que.
C'est, le terreau, il était trop fertile. Non. Ouais. C'est conjoncturel. C'est juste qu'il se foutait de la gueule des musulmans depuis, disons-le, tu vois, le septennat de Macron. C'est que on a encaissé Marlène Schiappa, Blanquer, Darmanin, blablabla, les journalistes, et qu'en fait, là, cette fois-ci, c'est, tu vois, je suis en train d'en discuter tous les jours, ils sont dans une impasse. Ouais. Parce que là, pour une fois, c'est ce que je redis et je dirais jusqu'au bout. J'ai refusé des interviews déjà encore aujourd'hui. Il y a des journalistes qui nous écoutent, donc j'espère qu'ils le comprendront. Je vous le répète, ce que je le dis que dans mon podcast. C'est mon podcast qui a l'exclu de mon propos. Je ne vais pas aller dans vos journaux pour parler avec des abrutis ou je ne sais qui, mais la vérité, c'est qu'il y a une communauté musulmane. C'est pas pour me déplaire, j'en suis triste de voir comment elle s'est construite, mais elle s'est construite dans l'adversité, dans la dureté et dans l'humiliation. Et en fait, nous, on n'est pas nos darons, quoi, tu vois, donc on va pas laisser même un journaliste aujourd'hui dire des trucs aberrants et on va baisser la tête sans rien dire. Et franchement, c'est même plus du conflit israélo-palestinien, c'est un conflit franco-français. Tu vois, ce matin, j'ai fait une interview pour le Maroc. Ils me parlent pendant trois quarts d'heure de la presse française. Ils m'ont même pas parlé de la Palestine parce que je suis pas d'accord avec ton propos de dire oui, mais je comprends pas. Frangin, t'es un mec intelligent, sais lire.
C'est pas que je comprends pas, c'est que si je m'intéressais, je comprendrais, mais j'ai pas suffisamment de connaissances.
Mais c'est pas vrai.
J'ai pas pris le temps d'avoir des connaissances, d'intéresser au sujet pour être légitime, pour en discuter avec quelqu'un et débattre.
Mais alors déjà, je vais dire deux choses. La question de la légitimité, ce doute permanent qu'on a sur nous-mêmes, il vient de nos parents. Frère, tu sais parler, t'as été à l'école.
Non, mais si tu connais pas un sujet, tu vas pas débattre avec un mec.
Mais c'est
pas ça qui va te.
La force que t'as, c'est que tu sais lire.
Ouais, bien sûr.
Bon, tu lis 5 livres que je te conseille.
Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai pas pris le temps de le faire.
Ben oui, mais tu vas le prendre. Bon, c'est vrai.
Ben Nordi, laisse-le tranquille, Nordi. Non. J'ai envie de regarder Netflix, et t'es pas obligé à lire 5 livres.
Mais je vais te dire.
Tu lis 5 livres, tu reviens demain.
Non, mais tu vois, moi, tous les soirs, là, tu vois. J'essaye de comprendre, tu vois, j'ai relu les écrits de David Ben-Gourion, j'ai retrouvé un bouquin sur Yitzhak Rabin, j'ai lu le parcours de Yasser Arafat, tout ça c'est des trucs, tu vois, et en plus avec internet accessible. Moi quand j'étais petit et que mon daron me faisait va lire un livre, c'est qu'est-ce qu'il est casse-couille la huisse, et j'avais beaucoup de livres chez moi, je lisais beaucoup et tout, mais tu vois j'étais même, je vais te dire un truc, je lisais beaucoup quand j'étais petit de BD, parce que j'ai déjà raconté dans ce podcast, ma mère, elle faisait le ménage chez des blancs riches, et quand ils voulaient se débarrasser de leur BD, ils les donnaient à ma rhum. Et je lisais Tintin.
Ouais.
Et je partais au bled, et j'emmenais des Tintins avec moi, sur la route du bled. Et quand mon daron n'était pas là, je jouais à Tetris, mais quand il était là, et j'arrive au bled, j'avais lu 2-3 Tintins, tu vois. Et je tombe sur un Zincou Awam qui était à la fac en France. Il me dit, mais tu lis Tintin et tout. Je dis, ah ouais, c'est formidable et tout. Mon préféré, c'est Tintin au Congo. Et tu sais, un peu. Tu sais, il m'a dit, non, c'est ultra colonial. Et il m'a donné un bouquin, il m'a dit, lis ça. Et j'ai lu la bio de Hergé. Tu sais, Hergé, c'est pas son nom, c'est ses initiales, R et G. C'est les créateurs de Tintin. Et quand j'ai lu sa bio de Yinche, j'ai dit, mais c'est le plus grand sistra de la Terre. Ouais. C'est-à-dire vraiment. Et en fait, ça m'a permis de plus jamais lire Tintin ou de plus jamais le lire. Comme un truc, c'est une œuvre coloniale, Tintin. Tu vois, comment un petit blond avec une houppette Il va chercher du pétrole chez les Arabes, il les défonce. Et tu vois, et pourtant...
Et surtout la représentation des Noirs dans Tintin au Congo.
Des Noirs, des Arabes, frère. Ouais. Tu crois que les Arabes, Dupont et Dupont, quand ils viennent déguisés en MBS, tu crois que c'est stylé, ça, ou pas ? Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on doit... c'est ça qui fait qu'on doit changer l'histoire. C'est que artistiquement, si tu crées pas tes héros à toi, et ben en fait, t'as pas le narratif. Les Noirs américains, c'est ce qu'ils avaient créé déjà à travers le sport. Mohamed Ali, c'était un Superman pour les Renois. Tu vois, franchement, quand il boxait, et Mohamed Ali, c'est le plus prestigieux. Mais tous les autres, Foreman, comment il s'appelle, on en a parlé, Bill Russell. Nous, en France, c'est malheureux. Mais quand j'ai vu hier la petite nana là, au tennis,
Ons Jabeur,
qui est tunisienne, voilà, et qu'elle s'est mise à pleurer, c'est pas les larmes de crocodile d'Eric Nolo, ce mytho. C'est que l'autre, la Tunisienne, elle est affectée. Et la tête de l'homme, elle m'a fait pleurer quand elle a dit, parce que moi, quand ça parle d'oseille, je pleure. Elle a dit, je donne ma paye, ou la moitié de ma paye, aux Palestiniens. Mais wallah, je me suis dit, les fouteux, ils doivent être dans un état psychologique de trou de balle, ouais, en train d'aller à Ibiza avec une chicha et des meufs qui connaissent App. L'autre, elle joue au tennis. Elle est Tunisienne, donc j'imagine qu'elle doit avoir un contrat encore moindre que les Américains, que les Français. Et la meuf, elle dit que ça paye. Et moi, je me disais, si j'étais hier, j'aurais dit, c'est pas la peine, Frangine, hein, garde ton oseille. Et la pauvre, hier, elle a donné une leçon. Et d'ailleurs, j'ai lu ce matin que peut-être elle allait le payer. Là, il y a des mecs qui lui mettent la pression en lui disant, tu présentes tes excuses. La meuf, c'est une Tunisienne. Elle doit dire, HB, que m'en bats les couilles, moi, tu vois. Et je me dis, si tous les footballeurs musulmans...
Elle est seule, hein. C'est normalement un milieu où elle est seule. Dans les 100 premières mondiales, t'as pas une autre meuf musulmane rebeu.
Bah bien sûr.
Tennis. Hein.
Mais tu sais ce que ça. Mais le tennis, c'est vraiment un sport de jouabs. À chaque fois, on le dit derrière ce micro. Mais c'est déjà. Je connais pas sa vie, mais j'imagine que déjà, c'est pas la Tunisienne, frère, dont les parents ils vendent du poisson. Faudra qu'on vérifie. Mais que la nana hier. Elle se met à pleurer et qu'elle dit je donne la moitié de ma paye dans l'émotion.
Et que le journaliste essaye de la reprendre, de la rediriger vers le sportif.
Non, gardez votre argent parce que les Arabes c'est des terroristes. Est-ce que vous êtes heureuse ? Et tu vois, et ça, c'est aujourd'hui, je dis pas à chaque fois on met la pression à Mbappé. C'est pas Mbappé. C'est que si tous les joueurs de confession musulmane voulaient que le game y change, si en durant une journée, hein, ils disaient là on joue pas pour la paix, mais la tête de Wam, ça serait. Mais en plus, je vais te dire un truc. Moi qui aime bien le foot et qui aime bien l'histoire du foot, Socrates, il a engagé son équipe. L'équipe du Brésil, tu te souviens, qui avait refusé de parler avec le président du Brésil à l'époque, qui était un dictateur. Ils avaient refusé. C'est-à-dire que quand tu as une aura, Socrates, c'est le frère d'un joueur qui s'appelle Rai, et c'est le plus grand joueur, non pas très bon joueur de foot, très très grand joueur.
Son oncle, je crois, Rai.
Hein ? Non, non, son frère.
Ah bon ?
Son frère. Son grand frère. Et il était dentiste.
Oui.
Je sais pas si tu imagines, les footballeurs pour nous c'est des golemons, l'autre il était dentiste et footballeur. Mais surtout la force qu'il avait, c'est que c'est un footballeur formidable parce que il a engagé une équipe dans la politique. Et c'est le cas de l'équipe du FLN, je l'ai déjà dit, mais je te jure que là si toute la Ligue 1, la Ligue 2 nationale, on va aller jusqu'en DH, tous les musulmans qui sont affectés par ce qui se passe, ils se disent pour la paix, on joue pas, mais c'est worldwide, c'est plus que moi quand je fais un DJ chelou avec toi dans une cave. Merci à toi, mon cher Samir.
Merci, Nordine.
Donne le micro derrière, Nordine, pardon. Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles, cher ami ?
Zoubir.
Zoubir, tu fais quoi dans la vie, à part commenter les génocides ?
Bah, je suis un peu comme les 6 millions de musulmans, je bosse dans les chantiers.
Ah ouais, c'est vrai ?
C'est toi qui as accès aux bombes et tout ?
Voilà.
Selon Clarsfeld.
Excuse-moi, mais c'est quel chantier où il y a des bombes et des armes ?
C'est le chantier de la Seconde Guerre mondiale.
Je saurais pas te dire.
On retrouve des fois des bombes de la Seconde Guerre mondiale dans des chantiers. Ça t'est arrivé, toi ?
Non, jamais.
T'es sur quel chantier, là, en ce moment ?
Non, je déconne.
Ah, t'es pas ?
Non, je suis pas dans les chantiers. C'était pour faire la référence.
Mais laisse-moi
pour la boutade.
Tu fais quoi dans la vie ?
Dans l'informatique.
Oh, putain, j'en ai marre de notre public. Tu suis l'actualité, j'imagine ?
Oui, diverses et variées.
Bon, celle-ci, elle est pas variée. Elle est...
Non, mais non, elle est triste. Donc moi, si j'ai un mot à dire, c'est ce qui me choque, c'est la préemption de la pensée. On te dit comment penser, on te dit que si tu penses différemment, bah, tu penses très mal, et qu'on va t'expliquer comment il faut penser. Donc ça, c'est choquant.
C'est ce qu'on appelle les éditorialistes. Ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, mais c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui dans la presse. Et
Mais je ne sais pas pourquoi vous appelez... Bah, surtout, c'est la colonisation.
Oui.
Parce qu'ils ne disent pas à n'importe qui de penser. Ils disent surtout aux Arabes et aux Noirs qu'ils considèrent inférieurs. C'est pour ça que je te dis, là, faut plus y aller, quoi. Tu vois, moi, je...
Non, parce que les Blancs, ils sont... Les Blancs qui pensent ça, ils sont complices aussi.
De quoi ?
Complices. Bah, ils sont complices de... Si on pense pas comme ils disent aussi, même si on n'est pas Rebeu ou Renoir, on est complices. Là, par exemple, j'ai entendu que Jean-Luc Mélenchon devait être fiché S. Je sais plus qui a dit ça, c'est un politique hein, qui a dit ça.
Carl Olive.
Voilà, Carl Olive, exactement.
Ouais, ouais.
Parce que tout le monde cherche sa petite punchline en ce moment, c'est Bouscapé, la politique.
Bouscapé. Alors moi j'ai bien aimé...
Bouscapé politique.
Moi j'ai bien aimé l'autre, là, le Golemont de CNews, qui dit faut mettre des kippas.
Ah, la journée de la kippa.
Ouais, ouais. Celui-là, lui, moi je l'aime bien. Moi.
Kevin, c'est un prof. Hein,
ouais, Kevin
prof,
Bossuet.
Prof d'histoire, ouais. Prof d'histoire, dans le 93.
Un facho hors norme, et qui a dit faut mettre une kippa. Mais, non mais juste, parce que je vois très bien sur quoi on va nous amener. Les abrutis là qui criaient dans le métro. Mmh. Ce midi, on m'en parlait et tout. On me disait, ouais, mais les amis, vous voyez bien qu'ils sont finis à la pisse. Vous voyez bien quel genre, quel âge ils sont. L'effet de groupe, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a rien à tirer de ces gens-là. Et vous voulez leur donner une dimension nationale, politique. Tous, je le dis là derrière ce micro, ils ont bousillé leur vie. Tu vois, quand on va les retrouver, et crois-moi, je l'ai dit hier, c'était une blague, mais toute personne qui, de près ou de loin, là, fait un acte antisémite et tout, je t'annonce, il est trouvé beaucoup plus vite qu'un djihadiste. Tu vois, donc ils vont le retrouver. Ils sont en garde à vue. Ah ouais, donc voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini. Ça va être dans leur dossier, ils sont machin, c'est fini. Mais le fait de dire, regardez comment les musulmans, ce que tu disais tout à l'heure, c'est juste, c'est des golemons dans le métro. Tu vois, moi, franchement, je dis pas qu'il fallait le faire dans un endroit reculé, mais en plus, je me bats depuis des années et je me fais retoquer quand on dissocie le racisme de l'antisémitisme. C'est que notre pays qui fait ça. Comme si, et c'est dans la sémantique que déjà, ils ont créé une contrariété. Soirée contre le racisme, contre l'antisémitisme et le racisme. Mais c'est quoi l'antisémitisme ? C'est le racisme des Juifs. Mmh. C'est parce que tellement vous culpabilisez de votre rapport à l'antisémitisme en histoire de France que vous l'avez sorti. Mais je vois pas pourquoi on ferait pas la soirée contre l'homophobie et le racisme. Ou l'islamophobie, bon, ça n'existe pas selon eux. Mais tu vois ça...
La LICRA, c'est racisme et antisémitisme.
Ouais, et ça fait des années, depuis génération, tu te souviens, qu'on avait rencontré les patrons de la LICRA, on leur a dit, pourquoi vous le mettez pas ? Ils disent, et ils nous avaient dit, c'est pas pareil.
Ouais.
Mais déjà, les Juifs, ils ont rien demandé, les pauvres. Et déjà, tu les mets dans une posture... favorisante à l'égard des autres. Et déjà, ça crée une tension.
Mais il y a des clashs entre les antiracismes aussi. Hein. La LICRA, SOS Racisme, c'est plus considéré comme pour les Rebeux et les Renois, et la LICRA plus pour les Juifs. Même dans ces domaines-là, il y a de la concurrence.
Mais par exemple, Dominique Sopo, qui est patron de SOS Racisme, avec qui on s'est embrouillé en public. Hein.
Mais il tient sa place, hein. C'est le seul qui a dû reçu longtemps.
Et en fait, 20 ans qu'il est... en fait, je l'ai vu la dernière fois, et on s'est réconcilié avec le temps. Parce que je veux plus qu'on blâme. On a perdu beaucoup de temps dans des querelles, même si SOS Racisme a pu faire de la merde, ça a donné lieu à Ni Pute Ni Soumise. Et d'ailleurs, je vous conseille de suivre Julien Drey sur les réseaux sociaux. Il a totalement basculé. Mais SPT, syndrome post-traumatique, qui est totalement fou. Il s'est embrouillé avec cette femme exceptionnelle palestinienne née dans un camp de réfugiés, Rima Hassan, voilà, qui fait un travail, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est quand il y a des gens que tu connais qui s'embrouillent et tu te dis, je vais intervenir pour les réconcilier. Rima Hassan, genre personnage et tout, qui n'est pas sans me rappeler Leïla Chahid. Leïla Chahid, qui était cette grande gueule arabe absolument formidable, qui est venue sur LCI récemment, qui est sortie de sa retraite pour les coucher un par un. Leïla Chahid, c'est la première qui m'a donné un émoi d'élocution. Quand j'étais petit.
Ah oui ?
Quand j'étais petit, je la voyais à la télé et je voyais cette femme et tout, disons la vérité, pas voilée. Elle est pas voilée et tout. Et elle parle français, elle a un accent qui est vraiment extraordinaire. C'est un accent hyper beau et tout.
Elle est pas française ?
Elle est palestinienne.
Ah, elle est palestinienne, pardon.
Mais Yasser Arafat.
Oui, moi, je m'en rappelle, je crois.
Yasser Arafat, il disait, c'est Leïla Chahid, la patronne. Là, je vous conseille de voir. Leïla Chahid, je comprends même pas comment les journalistes l'ont invitée. Elle a couché LCI, mais c'était une formalité, balayette, merci tout le monde. Et en fait, Leïla Chahid, elle est vraiment... Ça se voit que, là, je l'ai pas revue depuis, mais je pense qu'elle a dû se dire, putain, ils sont plus haut niveau, les journalistes. Mmh. Parce qu'avant, elle venait, mais elle se tapait contre des mecs, ils étaient 3-4 sur le plateau, elle disait, non, machin, et si, et elle aussi, ce qui l'a beaucoup affecté, je le dis dans ce podcast, c'est que ce que pensent beaucoup, c'est qu'Yasser Arafat aurait été empoisonné.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il est mort à Paris et beaucoup pensent qu'il a été empoisonné. Bon, disons la vérité, il était aussi dans un état physique très, très, comment dire, consommé. Mais Leïla Chahid, et tu vois, je voyais Rima Hassan qui s'embrouillait, qui écrivait un tweet en disant, je sais pas quoi, elle expliquait, et, tu sais, elle est née dans un camp, tout ça, elle a eu une vie douloureuse. Et Julien Drey, qui est Baron Noir, qui est censé incarner une forme d'élégance dans la politique française, tu le lis sur Twitter, franchement, il a rien à envier à un rappeur indé dans une cité. Il y a des fautes, il dit de la merde, tu sais, il provoque, il dit, vous étiez pas là pour les bébés, tu sais, des phrases, tu dis, mais gars, t'es, normalement, tu, c'est pas comme ça que tu réagis. Mais ça en dit long sur ces putains d'arabes et noirs qui ont cru au PS. Moi, Julien Drey, je le dis, là, je vais le défoncer parce que j'ai travaillé avec lui, je pensais qu'il avait changé. Mais là, il a montré son vrai visage. Alors que quand on travaillait ensemble dans un fonds d'investissement, il avait dit, ouais, j'ai pu être dur, tout ça. Il a créé SOS avec Harlem Désir, Malek Bouti. C'est lui le troisième larron. Il tourne SOS Racisme pour dire non, mais l'antisémitisme, c'est pire. Parce qu'à la base, touche pas à mon pote, comment ça se crée? Ça émane de la marche des beurs.
Oui.
Ils écartent les Arabes de la marche des beurs et de l'égalité. Ils les écartent. C'est que des rebeux aujourd'hui, je te dis, c'est des anciens. Ils ont les dents cabossées. Ils sont dans un état physique. C'est comme ce qu'ils avaient fait pour les Black Panthers avec le crack. C'est-à-dire, c'est une génération ravagée de grands frères. Tu les vois plus à chaque fois que j'en vois un, tu le prends dans tes bras. Et t'as bien vu, ils viennent nous voir en spectacle. Ils nous disent, ouais, continue. Tu dis, mais les mecs, normalement, ils devraient avoir des statues dans les cités. La Marche des Beurs, c'est pas un film pourri fait avec Jamel Debbouze. C'est vraiment, normalement, c'est une vraie histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait touche pas à mon pote. Mitterrand, il a confié ça à Julien Drey. Il s'est dit, je vais faire monter l'antiracisme en même temps que le racisme. C'est Mitterrand qui fait monter l'extrême droite et c'est lui qui crée SOS. Et en fait, Julien Drey finit par écarter Malek Bouti et Harlem Désir. Ils finissent par s'entretuer. Le mec qui a le moins de talent dans la boucle, c'est un espèce d'immigré espagnol qui s'appelle Manuel Valls.
Ah oui.
Qui à l'époque est là et il est au 40e rang. J'explique la politique pour savoir comment l'antisémitisme est devenu l'alpha et l'oméga de la pensée du PS.
Faudessi là aussi.
Et à un moment, Faudessi là, qui finit par se retrouver avec 45 kilos de drogue chez lui. Hein. Ouais. C'est quand même Faudessi là, c'est comme ça qu'il tombe. Et juste pour te finir l'histoire, qu'est-ce qui se passe? SOS Racisme n'est plus du tout respecté dans les quartiers dans les années 90. Et ils se disent, on va rentrer dans les foyers, on va séparer les sœurs des frères, on va créer Ni Pute Ni Soumise. Et ils créent Ni Pute Ni Soumise, qui a bousillé des familles, tous ici vous êtes au courant, c'est-à-dire que ta sœur est plus intégrable, pardon, au sens propre et figuré, parce qu'en fait, la rebeu, elle incarne une forme de fantasme dans l'élite française. Je parle là, il y a des femmes d'origine maghrébine. Elles le savent très bien. C'est un objet de fantasme. Les blancs de cette société verront toujours la rebeu comme sur les tableaux de Delacroix. Fatima, faites-moi une espèce de déhanché. Comme ça, ils leur parlent. Mais je vous dis la vérité, c'est les témoignages qu'on a dans les entreprises. Des meufs qui rentrent dans des grandes boîtes et à un moment, il y a un patron blanc qui lui dit « Excusez-moi, vous pouvez me ramener des loukoums ou des trucs comme ça ?» Et ça, ça va créer Fadela Amara, ça va créer toute cette démarche. Et à la fin, ils vont être niqués par les deux. Parce que les gens des quartiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est mal connaître les quartiers pour ne pas se rendre compte que c'est les femmes qui tiennent les cités. Ou c'est les daronnes, ou c'est la grande sœur. Et pour les petits faits divers où tu dis « Ouais, mais il y a une meuf, elle ne peut pas se mettre en jupe dans la cité. » Bah si, une femme ne peut pas se mettre en jupe dans la cité, c'est que ta cité, elle pue la merde. Parce que normalement, elle a forcément ou des connaissances ou des frères. Moi, je te le dis, au Mureau, c'est arrivé. Il y a une femme, elle a mis une jupe. Il y a un petit, il l'a sifflé. Ben, elle est venue, elle lui a mis une totarde dans la gueule. Et il n'a pas répondu. Elle lui a dit, viens, on va voir ta mère. Parce qu'elle était en classe avec la mère du petit. Donc, à un moment, il faut réaliser que... pardon, j'ai été un peu long, mais sur l'histoire de France en France, elle est bien racontée, je pense, jusqu'à 1945. Après, l'histoire de 1970, les vagues migratoires jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils savent toujours pas qu'on sait lire français, on sait parler, on paye nos impôts.
Oui, t'as raison, ça a été un peu le même processus entre SOS Racisme et le PS. C'était un peu le même
bien
procédé
sûr.
Où on a voulu infantiliser les Arabes et les Noirs.
Mais c'est pour ça que Mélenchon, il est puissant. Parce que lui, il faisait partie du PS. Et quand il est arrivé pour recruter tout le vote musulman, il leur a dit quoi? Il leur a dit, moi, je suis pas comme le PS. Je vais pas vous infantiliser, moi. Mais durant toutes ces années, le PS, il a lâché la cause palestinienne. L'extrême gauche a lâché la pause. Mais les Blancs, ils étaient beaucoup plus pro-palestiniens que toi, mon cher ami. Avant, les communistes, ils étaient ultra-palestiniens. Tu rentrais dans des bureaux, il y avait des drapeaux de la Palestine et tout. Et en fait, le PS et un tocard comme Roussel, là, cet anti-rebeu primaire là, que tu vois, c'est le seul mec du Parti communiste qui est soutenu par l'extrême droite, qui commence à faire le distinguo entre les travailleurs blancs et arabes et noirs. Et ben eux, ils ont amoindri la cause palestinienne, qui fait qu'aujourd'hui, regarde, t'en parles, t'es avec le Hamas. Il n'y a même plus de distinguo, tu vois. Franchement, le NPA, c'est même pas, il y a eu un malentendu. Je crois, le NPA, ça me rappelle les combats face à Mike Tyson. Ils sont montés sur le ring, ils se sont mangés une patate KO. Non mais, tu sais, il n'y a même pas eu combat.
C'est Jordan Zebo.
Non mais là, j'ai vu là, Philippe Poutou, il est maintenant sur Twitter. C'est parce que j'ai voulu dire KO. Ouais. C'est Jordan Zebo. 8 secondes. Revenons à toi, cher ami, pardon, ouais. J'ai été un peu long. T'as quel âge?
47 ans.
Ce que je viens de dire, donc t'es typiquement la cible. Est-ce que tu t'es d'accord avec...
Ah oui, je suis d'accord sur l'analyse. Après, d'un point de vue, ce que je regrette, c'est que justement, parlant de ça, les gens se disent parfois, bah, il faut plus voter. Et le risque, il est là. Le risque, c'est que les gens concernés, on vote plus. Les jeunes ne votent plus, les différents comités ne votent plus. Ils n'ont pas compris que c'est le seul pouvoir. Il n'y a qu'un seul. Les manifs, c'est bien, tout ça, c'est bien. Mais
c'est nul. C'est pas bien. C'est nul.
Mais
moi, je te le dis, ça sert strictement à rien. Le seul mec qui est content quand il y a une manif, c'est le vendeur de basket. Hein. Parce que franchement, les tribunes, j'en ai. M'envoyer plus. On s'en bat les couilles. Là, ils m'ont encore envoyé une tribune pour une fois que je peux mettre mon nom dans une tribune. T'imagines que maintenant, ils veulent m'enlever toutes les tribunes tellement je suis toxique. Mais le truc, on s'en bat les couilles. Franchement, on a plus de pouvoir, nous, en faisant un DJ chelou, que d'aller signer une tribune avec, je sais plus, la dernière fois, j'ai vu Juliette Binoche, mais j'ai eu un fou rire. Mais d'où, toi? T'es où? Non, mais pousse-toi. Tu vois, je voulais dire. Non, mais je vois, tu sais, lui dire, mais Juliette, c'est sympa, mais pousse-toi la tête de ma mère, tu vas te faire mal. Là, c'est les méchants, c'est les piranhas. Tout à l'heure, il y a un militant pro-palestinien, pardon, qui m'a appelé, je peux pas dire son nom, Toufik. Il m'a appelé, je suis bavard, hein. Mais alors lui. Il m'appelle sur mon téléphone. Je lui dis, fais attention, je suis sur écoute. Appelle-moi sur Telegram. Il n'y a pas de Telegram, mon frère. Allah, il est avec nous. Oh là là. Et je tenais le téléphone comme ça et tout. Et il me disait que des trucs de ouf.
La boucle d'Allah. Hein,
ah ouais. Il me disait, voilà, tu te rends pas compte. Là, ce qui se passe, c'est les musulmans, on est face au mur. Et c'est pas le mur des lamentations. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu sais, il était perdu. Et je voyais ce qu'il voulait me dire.
Il peut venir en freestyle un vendredi. Ça a l'air d'un bon rappeur.
Il me disait, je peux savoir pourquoi toi tu viens pas? Pourquoi on fait pas? On va pas, on va pas en Palestine. Après, on passe par Dubaï. Il y a des frères au Qatar, ils ont de l'argent, ils peuvent nous subventionner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que c'est que cette cavale de
fou? C'est quoi ce Pékin Express de musulmans là?
Et j'étais là, je me disais, et je lui dis, mais t'as perdu quelqu'un en Palestine? Il me dit, on a tous perdu quelqu'un. On a perdu notre dignité. Je dis, oh là là.
Disons, amène le podcast, lui, c'est excellent. Ce
non, il m'appelle, il me dit, faut faire une autre manif, on a besoin d'argent et tout. Je dis, non, mais frère, on a fait une belle manif et tout. Là, maintenant, c'est plus entre nos mains. C'est dans la main des politiques. Et objectivement, on va pas faire manif contre manif. Soit on fait une manif avec les juifs et on s'inclut les uns les autres, soit objectivement, ça n'a aucune utilité. On a compris que démographiquement, les Arabes et les Noirs étaient très fertiles. Non, mais c'est vrai. Mais on dit beaucoup.
C'est vrai,
Non, mais Thomas, tu vois bien ta rétine à Barbès. Elle ne voit que du sombre.
Mais bien sûr. Mais même Thomas Pesquet l'a dit quand il est allé dans l'espace. Il dit, oula, waouh, tout ça.
Meilleur van, Karim Boukercha, que j'aime beaucoup sur Twitter. Il y a, comment il s'appelle, Wembanyama.
Oui.
Il a fait un selfie avec quelqu'un et il a écrit comme commentaire, ça fait des photos à la Thomas Pesquet. Très bonne van. Pour finir avec toi, mon cher ami, comment tu vois les choses dans les semaines qui viennent?
Ouais, je suis très pessimiste.
C'est vrai? Est-ce que tu songes à partir? Pardon, c'est la question pour les bougnoules.
Non, je suis français, hein, voilà. Donc
toi, malgré... alors là, vraiment, je pense qu'on a atteint un niveau quand même élevé. Mais si, par exemple, Marine Le Pen passe...
Ça changera rien.
Ouais. Tu fais partie de ces rebeux qui ça changera rien.
Sincèrement, je veux dire, ça fait 20 ans. Le virage a été pris il y a 20 ans. C'est pire en pire, parfois il y a des accalmies, puis ça continue. Après, il faut se poser. Bah, ça continue,
ça
s'arrête pas.
Parce que c'est le champ lexical de la tempête. Ouais, bah, des fois, il y a des accalmies, puis des fois, ça revient fort, quoi. Faut juste.
Là où on peut dire ça pourra pas être pire, c'est les médias. À moins que.
Ah, ils vont te surprendre, là. Ils concourent tous pour le ballon d'or.
Livre noir. Ouais. C'est moi qui leur ai créé leur buzz. Mais tu sais que là, sur les réseaux, c'est des fous furieux. Je sais pas si t'as vu hier ce qu'ils ont fait. Pour ou contre la peine de mort. Ils ont sorti un sondage où ils disent les Français sont pour la peine de mort. Mais bande de golemons, on n'a jamais dit que la France n'était pas pour la peine de mort. Ce qui fait la grandeur de notre France, c'est qu'on est contre la peine de mort, malgré le fait que ça soit très populaire. C'est qu'il y a un mec qui s'appelle Badinter, ce juif.
Et Mitterrand, à la base, c'était lui qui avait promis ça dans sa campagne.
Non, c'est surtout Badinter. Tu sais, il y a une très bonne vanne, comment il s'appelle il y a une citation qui dit Mitterrand a deux avocats. Un pour le droit, Badinter, et Roland Dumas pour tout ce qui est de travers. Et en fait, c'était ça le côté bicéphale de Mitterrand. C'est que Dumas, c'était une caïra qui faisait des trucs de ouf. Et Badinter, c'est la droiture. Et d'ailleurs, c'en est même surprenant quand tu vois sa femme prendre la parole, c'est quand même un peu, tu vois, genre marqué parce que.
Eh ben peut-être qu'il aurait bifurqué pareil, hein, parce que elle se revendique de l'héritage.
Non, moi je
de
me
son
dis
mari.
Toujours, j'aimerais petit déjeuner avec eux, ouais. Parce que lui c'est un très grand monsieur, tu vois vraiment, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, ne soyons pas américains bêtes et méchants communautaires. Il y a des juifs qui ont changé l'histoire de ce pays et voilà, et c'est ce qui fait la fierté que même moi en tant que musulman je dis bravo. Mais je vous conseille juste pour avoir des frissons de revoir le discours de Badinter à l'Assemblée pour dire pourquoi il faut qu'on soit contre la peine de mort.
Pardon, je croyais qu'il était mort.
Qui?
Badinter?
Pas du tout.
95 ans.
Ouais, pas du Vache. Tout. Non, non.
C'est pour ça qu'on l'entend plus aussi. Non, mais non. Par contre, sa femme, on l'entend trop.
Mais quand il vient sur un plateau télé, il est vraiment, vraiment, tu vois, genre, maintenant c'est des vieux messieurs, mais comme lui, comme Jox. C'est des mecs quand ils prennent la parole. Mais c'est des mecs qui prennent la parole.
127 ans, Jean. L'ancien ministre de l'Intérieur dans la Troisième République.
Merci à toi en tout cas, cher ami. On va faire tourner le micro derrière. Tiens, une nouvelle là, je n'ai jamais vue. Toi, au milieu. Toi, je t'ai jamais vu. Non, toi. Non, vu que tu es timide, toi.
Je suis très timide, ouais.
C'est vrai ?
Bonjour.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Nawel.
Nawel, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis préparatrice en pharmacie.
Super. T'es jamais venue ?
Non.
Ah, c'est très gaulerie.
Alors, ne me fais pas regretter d'être de venir.
Non, t'es venue avec qui ?
Avec mon ami.
Ah, ben.
Parle bien dans le micro, Nawel. Ben, notre ami de Perpignan.
Bien sûr. La femme la plus engagée.
Voilà,
qui était partie. Tu préférais la laisser parler, d'ailleurs ?
Non, on connaît son histoire. Elle traîne avec des femmes voilées, elle va au bord des lacs.
Ouais. On connaît son histoire. Les Wallengers, là, elles sont parties à 7. À 10.
Ouais, vous les voilez, je ne vous oublierai jamais.
Ouais, que vous nous racontiez de vos vacances quand même. Hein. C'était incroyable.
C'est le hijab pique-nique. Très très grave. Ouais. Très très grave.
J'ai vu une vidéo tout à l'heure d'une femme qui fait son voile avec le slip de son mari. Je sais pas si vous voulez. Oui.
Non, mais on m'a envoyé la vidéo. Je sais pas. Non, mais on m'a envoyé la vidéo 15 fois. J'ai envie de dire. Le problème, c'est que tout le monde a accès au voile.
Ouais, mais
et je n'arrive plus.
On n'y voit que du feu, Yacine. C'est très bien fait, en tout cas.
On n'y voit que du feu. C'est bien, super. Ça sera un magasin, ça, pour vendre des voiles.
On n'y voit que du feu.
Bah oui. Non, mais franchement, j'ai trouvé que le buzz était absolument horrible, quoi.
Ouais. Non, voilà. Ben, je sais pas. Voilà.
Non, là, on m'a envoyé un imam tout à l'heure qui, visiblement, fait imam, pompiste et géopolitique. Je sais pas quoi, là. Il avait la beubar. Il disait, subhanallah, les frères, par la puissance d'Allah, les frontières se réinventent. Mais qu'est-ce que tu en camise dans sa chambre? Tout est nul.
Si on fait le tour des infos de Golemont aussi aujourd'hui, il y a cet évangéliste de Zimbabwe qui vendait des tickets pour le paradis. Qui a été arrêté.
Lui, on l'aime bien. Nous, on aime bien ça. Lui, c'est reste.
Il avait un paradis réduc, un billet réduc du paradis. Il vendait des.
Mais lui, c'est pas de sa faute. Nous, ceux qu'on veut rencontrer, c'est les clients qui disent à leur femme, de toute manière, je fais ce que je veux, paradis réduc. J'ai pris qu'un billet.
Incroyable.
Nawel, tu suis cette actualité?
Oui, comme tout le monde, je pense.
Bah, tu sais, il y a deux parties. Soit tu suis l'actualité, soit elle te suit. Je pense que
je suis l'actualité.
D'accord, et qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je rejoins un petit peu Nordine, je pense que ça s'appelait comme ça.
Ouais.
C'est vrai, je me sentais pas spécialement concernée avant, je le dis. Hein. Et maintenant, oui, effectivement, on n'entend que ça, on voit ça. J'ai été aussi en Jordanie il n'y a pas très longtemps, j'ai pu aller en Palestine.
Dans quel cadre ? Vacances ?
En vacances, et puis on a passé 2 jours bah, d'ailleurs avec Assia.
C'est très grave, Assia. Ben, Assia après attaquer nos lacs et nos forêts voilées, tu vas en camp d'entraînement. D'accord. C'est vrai ? Tu aimes bien faire découvrir des zones de guerre. Non, après, là, on part à Kiev. J'aime beaucoup Kiev.
En tout cas, Assia, t'as pas réussi à voiler Nawel.
Mais tu crois, mais
ah, tu voiles pas des, tes copines.
Mais toi, tu fais vraiment partie des tocards. Ah. Et tu vois que les femmes voilées toute la journée, elles sont. Ouh, qui veut se. Allez.
Excuse-moi, visiblement, pour être dans le club d'Assia l'été, faut pas voir tes cheveux.
Eh ben, c'est faux.
C'est faux. Ouais, okay, Nawel, elle était. Alors, Nawel.
Donc, juillet avec les sans voiles et août avec les voilées.
C'est très romain, ça. Dans son répertoire, il y a écrit Nawel et c'est une petite fille pas voilée. Et après, il y a des voilées. Bon, cette blague était drôle dans ma tête. Oh, Nawel, revenons à toi. Revenons à toi, Nawel. Est-ce que tu es affecté par ce qui se passe, évidemment ?
Oui, bien sûr, oui.
Quelle tournure, on parlait tout à l'heure avec notre cher ami, quelle tournure tu veux donner à la suite ici ? Est-ce que tu veux partir ? Est-ce que tu es écœuré ?
Moi, c'est vrai que je me dis, enfin, j'aimerais. Enfin, c'est pas que là, hein, mais je pense de plus en plus à partir de la France.
Ah ouais, pour aller
c'est pas que là depuis à l'étranger, je sais pas encore où, j'ai pas le métier qui me permet d'aller à l'étranger.
Bah préparatrice.
Faudrait que je change carrément de voie. Ce qui est un peu difficile
de voix,
aussi.
Pas de voie là.
Oui.
Vas-y.
Donc mais ça fait un petit moment que je pense à partir d'ici en tout cas.
C'est vrai ?
Ouais.
Oh, putain mais
j'ai un autre ami à nous qui veut partir, Yacine, Omar Dawson.
Ah oui, lui parce qu'il est recherché.
Non.
C'est pas la même chose.
C'est vrai? Oui, il m'a dit ça. Et je lui dis, bah, passe au podcast avant. Ceux qui veulent déménager dans un autre pays, passez au podcast.
Non, je pense pas que ce soit une bonne idée que Omar Dawson vienne à notre podcast. Hein. Non, il vient, très très talentueux.
Oui, on en parlait des...
du 91. Ouais. Et tu partis. Pardon, question personnelle, t'as des enfants?
Non.
D'accord. Donc tu aurais l'ambition d'avoir des enfants dans un autre pays?
Pourquoi pas?
Ouais. Non, mais c'est une vraie question.
Non, mais c'est une vraie réponse.
J'essaye de comprendre ceux qui veulent partir. Ouais.
C'est une vraie réponse. Pour... En plus, c'est une richesse d'esprit, je pense, même pour les enfants.
Pas du tout. Non, ça, alors moi, j'en ai 3. Ouais. Ils s'en battent les couilles. Ouais. Du moment que tu leur payes des Jordan...
Je ne sais pas quel âge ils ont tes enfants. Peut-être maintenant, ils ne se rendent pas compte, mais plus tard, je pense qu'ils vivent.
Bien joué, Nawel. Tu ne connais pas le podcast. J'ai tous les goûts. 17, oui. 16. Donc ça, affaire réglée.
Mais ça, c'est un âge.
Et j'en ai un de 8. Tu le mets en Tchétchénie, à New York... À Barbès, il a la même émotion. Ce qu'il veut, c'est manger un hamburger, ce bâtard. Non, je pense vraiment, en plus, je te dis, pour pas faire de plaisanterie, mais si tu partais dans un autre pays, tu partirais en tant que Française. Donc, de toute manière, objectivement, sauf si tu vas dans un pays occidental, si tu... T'es de quelle origine ?
Algérienne.
Bon. Si tu partais dans un autre pays que l'Algérie, t'aurais des privilèges de Française. Pas de
c'est
blanche.
Vrai, c'est vrai, c'est
bah
vrai.
Oui. Donc en fait, en gros, tu dis c'est une richesse. Bah pas du tout. Parce que tu vivrais comme une expat. Ils iraient à l'école française. C'est pas, ils seraient dans le douar en train de jouer au foot pieds nus et ils emmèneraient le pain au farran. Tu vois, non mais il y a un pote à moi.
J'ai rien compris à cette phrase.
Bon. Le douar.
Oui, c'est bon. Le toit là. Le toit.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Ça
c'est sta.
Putain.
T'es pardon. Nul en arabe.
Le douar, oui, douar, douar coco, douar, le village.
Le quartier.
Le quartier.
Okay. Et farran.
Farran le four. Ok, c'est bon. Si, j'avais pas. Mais ça a été vite, mais c'est bon. J'ai fait Google Trad vite fait dans ma tête. C'est
ouais,
bon.
Ouais, Google Trad.
Ouais.
Non, juste pour finir là-dessus, je trouve ça intéressant que tu nous. J'essaye vraiment, grâce à ce podcast, un journaliste vient de m'envoyer un message là-dessus en me disant j'ai besoin des 30 Glorieuses pour comprendre la France. Le témoignage
Pascal
qui
Pro, c'est ça.
Mais on a besoin de comprendre comment le déclic se crée. Et je crois que là, ce qui s'est passé a été un déclic très puissant. Vraiment, c'est la première fois que je le ressens. Tous les gens à qui je parle, binationaux, me disent voilà, on va partir. Alors, il y en a, ils sont ouf. Il y en a tout à l'heure, il m'a dit je pars à New York. Je lui dis bah, regarde le prix du logement. Et voilà, tu vas finir en mexicain là-bas à faire des tacos.
Corée du Nord, moi, j'aime bien.
Quel pays tu partirais ?
Un bon climat. J'en connais pas beaucoup.
Il y en a beaucoup, ils disent Australie, parce qu'ils ne connaissent pas.
Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais petit,
il n'y a rien à faire. Hein,
j'étais complètement fan
et
de
en plus, là, j'ai vu, il y a un requin, il a baisé un surfeur, là.
Ah bon ?
Frère, j'ai vu l'info tout à l'heure. Vous avez vu, c'est passé ou pas ? Il l'a attrapé, bim. Goûté. Il l'a emmené.
D'accord.
Moi, un pays où il y a des requins déjà ?
Ah, c'est vrai qu'ils se traînent là-bas, Afrique du Sud aussi.
Ah, ouais. Au Maroc, il n'y a pas de.
Non ?
Non.
Trop chaud.
Surtout les Marocains. Ah non, non, bah c'est, ça serait l'inverse. Je peux te dire, c'est le requin qui serait mordu.
Le marocain, bien sûr. On a déjà fait ce jeu de mots.
Merci à toi, ma chère amie. Merci,
merci Nawel.
Merci à derrière toi.
Il y a des nouveaux là.
Je crois qu'on m'a parlé de toi. C'est pour ça, madame.
Bonjour.
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 Alors, c'est toi, pas madame. Moi, je suis pas madame. C'est pas madame, mais tu veux l'introduire?
Bah, si. Oh là là, je vais le dire à quotidien. On peut avoir cette voix-là. Voilà, c'est peut-être une madame. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une femme?
C'est vrai.
Que c'est un homme. Donne-lui le micro à côté parce que c'est... tu m'as dit que tu l'amenais, donc c'est pour ça que je veux lui parler. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Sally.
Sally? Mmh. Sally, tu as une particularité. Tu es de quelle origine?
Oh mince, tu sais.
Oui, je sais.
Palestinienne.
Palestinienne.
Tu peux le dire plus fort.
Oui, hein, tu peux le dire, hein, t'en fais pas, t'es pas sur CNews. Sally, tu es franco-palestinienne ou que palestinienne?
Je suis devenue française il y a 7 ans.
Pleure pas, Frangine, parce que sinon on va tous pleurer. Comment va ta famille?
Pour le moment, bien.
Tu leur parles tous les jours?
Non, parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Tout le monde est triste et c'est difficile de se parler en ce moment.
Tu vas y aller quand?
Ils sont où?
J'étais censé y aller le 8, mais mon billet est annulé.
D'accord.
Ils sont dans quelle partie de la Palestine?
Maintenant à Jérusalem, avant en Cisjordanie.
Comment tu regardes l'actualité française? Parce qu'on a peu donné la parole. Sally, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas obligé de parler. Si tu te sens mal, on arrête tout de suite. Mais je te dis quelque chose pour nous tous, même moi inclus. Tu sais, on a entendu très peu de paroles palestiniennes. On a entendu malheureusement à cause des journalistes français qu'une partie de la parole, et vraiment là ce que tu vas faire ça va être très utile pour les gens qui écoutent. Si tu veux on arrête tout de suite. Déjà j'aimerais savoir depuis le 7, est-ce que ta famille a bougé, est-ce qu'ils n'ont pas bougé, comment est leur vie depuis le 7 octobre?
En fait l'année dernière on les a bougés à Jérusalem, c'est mes deux parents. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Cisjordanie avec les colons et les barrages militaires, donc on les a bougés pour les mettre en sécurité, donc ils sont en sécurité pour le moment.
Vous êtes combien de frères et sœurs, Sally?
On est 4.
Et qui est là-bas, qui est ici?
Maintenant, on est tous ici. D'accord. Ils sont seuls là-bas.
Comment vit la communauté palestinienne? Aux États-Unis, je vois, parce qu'elle est très importante. Mais en France, par exemple, je te dis la vérité, je ne veux pas mentir, il est plus probable qu'un garçon comme moi et une perte côté israélien, parce qu'ici on a grandi avec des juifs, que palestinien. Comment est la communauté palestinienne ici en France? Est-ce que vous voyez, enfin ta famille évidemment tu les vois, mais ils sont dans quel état? Bon, dévastés j'imagine, mais vous voyez où en général?
On se voit... Je ne sais pas si je peux parler de communauté, parce que quand je suis arrivée en France, c'était pour faire mes études, et c'était en 2006, il y avait eu la guerre par rapport au Liban. On avait passé un été très difficile et... Et quand je suis rentrée en contact avec la communauté palestinienne, c'était des gens qui voulaient militer. Et il y avait beaucoup de colère à l'époque. Et moi, mes parents ont perdu des gens de leur famille parce qu'ils ont manifesté ou parce que c'était des journalistes ou des hommes politiques ou des médecins avec des ONG. Et je ne voulais pas militer. Je voulais juste avoir une vie normale. Donc, j'étais en contact avec la communauté pendant 6 mois et après, je...
Tu voulais passer à autre chose?
Oui. Et maintenant j'ai des contacts, j'ai des amis de partout, vraiment de partout. J'ai pas que des amis palestiniens, j'ai des amis de plein de pays. Et je disais tout à l'heure à Youssef, qui a eu la gentillesse de m'écouter, qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a énormément d'amalgames. Quand j'ai une conversation avec un ami, ça se transforme en débat de 4 heures parce que je dois corriger à peu près une phrase sur deux qu'il dit. Et je comprends, je me mets à la place des gens. Par exemple, moi aujourd'hui je connais rien par rapport à ce qui se passe au Soudan. J'ai aucune connaissance. Je sais juste qu'il y a un conflit, c'est loin, il y a des gens qui ont tué des gens. C'est immonde de dire ça, mais je me mets à la place de mes amis. Ils n'ont jamais été là-bas. S'ils ne sont pas de religion musulmane, s'ils ne sont pas de religion juive, s'ils ne sont pas du monde arabe, il n'y a aucune raison qu'ils s'intéressent à tout ça.
Sally, j'imaginais bien que ça allait être poignant. Il y a une phrase qui vient de Palestine qui me traumatise très fortement, c'est celle de dire... dites aux nos frères de pays arabes de ne pas faire de prière pour nous, parce que nous ne sommes pas morts, c'est les pays arabes qui sont morts. Est-ce que tu trouves que la communauté arabe ne soutient pas assez la cause palestinienne, ou avec ce qui se passe actuellement, tu es rassuré sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant de soutien?
Ce qui est compliqué, c'est que Moi, il y a des guerres depuis que je suis née. Hein. Je suis partie, j'avais 17 ans, j'en avais connu 6. Je suis née pendant l'intifada, donc j'ai connu que ça, en fait. Ce qui est changé, c'est les réseaux sociaux. Et ce que je disais à Youssef tout à l'heure, moi, j'ai grandi en écoutant les journalistes palestiniens. J'avais que cette vision du monde. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai appris le français, et je regardais les infos, je regardais les infos chez moi, je regardais les infos en France. Je me disais, mais c'est pas du tout... On n'est pas là. Il y a une semaine... ils ont bombardé une mosquée à Jenin, une ville en Cisjordanie random comme ça. Il y a eu des centaines de morts. Et les infos ici, c'était, une personne a fait une tag d'une étoile. Je dis, mais quand même, en fait, il s'est passé 19 000 choses avant cette étoile. Est-ce qu'on peut juste parler de tout? Pourquoi on parle que d'un truc en particulier? Donc, je trouve qu'il y a les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit avec mes frères et ma sœur, c'est que n'importe qui peut prendre la parole. Donc moi, je suis les paroles de Leïla Shahid, de Rima Hassan. Il y a beaucoup de femmes qui parlent en ce moment. Elles ont des paroles très, très, très fortes. Mais le problème, c'est que la personne qui n'a pas de connaissance, elle va ouvrir la télé le soir après son dîner. Elle est fatiguée. Elle zappe comme ça quelques minutes. Elle entend quelques conneries. Par exemple, pour moi, je disais à Youssef, la pire connerie, c'est de dire c'est la guerre contre le Hamas. Ça, déjà, c'est dire cette phrase, c'est une grosse connerie. Parce que là, les gens qui crèvent, il n'y en a aucun.
Du Hamas.
C'est des enfants, en fait. C'est des enfants, c'est des médecins, c'est des journalistes, c'est des gens des ONG aussi. Donc déjà, dire ça, c'est justifier cette guerre. Parce que c'est dire, c'est un peuple, enfin une armée contre une autre armée. C'est pas une armée. C'est une partie d'un parti politique qui est armé. C'est très différent.
Sally, les gens ne mesurent pas, en fait, ici, même nous. Et c'est très émouvant que tu le dises de cette manière-là. Quel est le lien aujourd'hui du peuple palestinien avec le Hamas? Tu le disais, la grande partie des dirigeants, on les voit à la télé, ils parlent de Doha, ils sont payés par le Qatar, je rappelle, à la demande des États-Unis et d'Israël. C'est quand même fou de se dire ça. Mais j'ai vu tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup ému, une femme qui a perdu toute sa famille et qui a insulté le Hamas. Et il y a quelqu'un qui lui a mis la main devant la bouche. On a du mal on a du mal à identifier le Hamas, le rapport qu'il a avec le peuple, et on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Parce que là, moi, où je trouve que ça devient très dangereux, et c'est que le Hamas veut en faire une guerre globale contre les Juifs. C'est plus le problème d'Israël. C'était déjà trop de se dire on va s'attaquer. Et tu vois, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer de manière claire, toi qui as quitté la Palestine à 17 ans, l'évolution du Hamas pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui?
Bah, c'est un vrai sujet. C'est comme les talibans. Regardez l'histoire du Hamas. La plupart des gens ne savent pas, mais c'est ce que je dis à mes amis français. Creusez l'histoire du Hamas. Le Hamas a été financé à la base par les Israéliens et les Américains. C'est comme le taliban. C'est la même histoire. La seule différence, c'est quoi? C'est que pendant des années... il y avait des partis qui, à l'époque, étaient aussi labellisés terroristes pour le monde international.
L'OLP.
Yasser
Arafat.
Et après, quand il a accepté de signer la paix et de signer les accords d'Oslo, et j'ai dit à Youssef, les accords d'Oslo pour les Palestiniens, c'était une très grosse défaite. Moi, je me souviens, je devais avoir 4 ans, mes parents pleuraient parce que c'était écrit dedans, vous aurez la paix, mais vous n'aurez pas d'infrastructure, on n'a pas la main sur notre eau, sur notre électricité. J'entends beaucoup de conneries sur Internet. Oh, on leur a coupé l'eau, c'est déjà sympa qu'on leur donne de l'eau. Non, on est colonisé. Notre infrastructure ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de gérer notre eau, notre électricité. Dès qu'il y a le moins de problèmes, c'est ce qu'on nous coupe en premier. La base de la colonisation, tu vois. Mais les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est gentil, on nous fait cadeau de l'eau et de l'électricité. J'ai vu ça sur des réseaux sociaux. Donc bref, tout ça pour dire, il y a eu ces accords. Et maintenant, ce parti n'était plus un parti terroriste. Mais en échange, c'est écrit dans ce qu'ils considèrent la base de l'autorité palestinienne, vous n'aurez pas d'armée, vous n'aurez pas d'armes, vous n'aurez pas de gendarmes, vous n'aurez pas de la main sur l'infrastructure, vous n'aurez pas, on n'a toujours pas de papier. Je suis arrivée ici, je n'avais pas de papier. Donc on n'a rien en fait, mais on est censé avoir une fameuse autorité, et ce parti n'était plus terroriste, d'accord? Et après, quand j'ai passé le bac, il y a eu les fameuses élections. Et en fait, ce parti s'est beaucoup enrichi après ces accords-là. Il y avait beaucoup d'hommes politiques, il y avait des hôtels à Tel Aviv. Ils avaient énormément d'argent. Et les gens
le Hamas,
toujours...
là, on parle.
Non, on parle toujours de l'OLP.
De l'OLP, pardon, d'accord. Oui, oui.
Le Fatah. Et les gens avaient énormément d'argent. Et tout le monde en parlait. Nous, on allait mal, on n'avait rien. Mes parents sont médecins, on n'avait des fois pas de quoi se payer à manger. Donc il y avait quelque chose qui était très bizarre, très, très bizarre. Et les gens ont commencé à complètement perdre confiance. C'est à ce moment-là que le Hamas a fait éruption. Il y a eu des élections. vous regarderez tout ce que je vous dis. Tout,
non, mais on te croit bien plus que même ce qu'on va dire.
J'ai expliqué à Youssef que moi, depuis que je suis petite, j'en avais marre de la propagande, même du côté palestinien. Je cherchais toujours des infos vérifiables.
Et toi, t'es arrivé, pardon, temporellement, donc 2005-2006, quand le Hamas a pris le pouvoir.
Oui, quand j'étais en France, il y avait eu la guerre civile. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Hamas a pris le pouvoir par des élections qui avaient été observées par des personnes internationales. Et c'est tout à dévalidé. Ce n'était pas du fake, ce n'était pas du bullshit. Les gens avaient vraiment voté le Hamas. Mais ils n'avaient pas voté le parti armé du Hamas. Ils avaient porté pour un autre parti politique. Parce que l'autre était vraiment corrompu, en fait. Et à ce moment-là, il y a eu le split horrible. Hop, la Cisjordanie, vous restez dans votre coin. Hop, les gens de Gaza, vous restez dans votre coin. Il y a eu un bouclier. Coupure de toutes les aides internationales pendant super longtemps. Et là, d'un coup, il y a eu des armes en Palestine. On n'a pas compris. On n'a pas des armes pour se défendre, mais d'un coup, là...
Il n'y a pas d'usine, c'est ça ce que tu dis. Il n'y a pas d'usine qui fabrique des armes.
Bah, en fait, on a... moi, je me souviens, en étant petite, tu vois, je me suis toujours demandé comment on peut se défendre. Une journaliste magnifique américaine a écrit ça, et j'ai déjà oublié son nom. Mais... elle disait tout ce que ferait un Palestinien serait du terrorisme. Parce que nous, on n'a pas le droit à une entité qui permette de nous défendre. On n'a pas d'armée, on n'a pas le droit, c'est écrit dans les accords d'Oslo. Donc peu importe ce qu'on ferait, peu importe le parti qui le ferait, on serait des terroristes.
Sally, comment tu vois l'avenir? Comment? Parce que nous, on ne mesure pas. Comment tu vois l'avenir?
Pour moi, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. En fait, il n'y a pas d'avenir parce que...
Je t'en prie.
Il n'y a pas d'avenir parce que... pense à tous les réfugiés qui sont sans papiers, qui sont coincés dans tous les pays limitrophes de la Palestine. Pense au fait qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a aucune main sur rien du tout. Pense au fait que ça fait des années et des années et des années qu'il y a des gens qui sont allés en prison en Palestine. C'est le seul pays, Israël, où on peut aller en prison sans une raison, en détention provisoire. Moi, j'ai un oncle, ça fait 10 ans, détention provisoire. On ne sait pas ce qu'il a fait. Hein. Détention provisoire. Donc tout ça, tu vois, comment tu vas le résoudre?
On parle de Georges Abdallah, beaucoup. Georges Ibrahim ou Georges Abdallah?
Je ne connais pas.
Georges Ibrahim Abdallah, d'accord. On parle des grandes figures palestiniennes qui sont aujourd'hui en prison depuis des décennies, qui étaient même plus puissantes que l'OLP, et qu'en fait, Israël devrait sortir des prisonniers pour avoir une nouvelle incarnation au sein de Gaza et en Cisjordanie, et en fait, pour battre le Hamas. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que le Hamas, si vous lui sortez une figure emblématique, c'est eux qui vont le tuer.
J'ai
vraiment une question là-dessus. C'est que c'est la première fois de ma vie sur le conflit auquel je m'intéresse que je ne vois pas d'interlocuteur des deux côtés.
Oui.
Même des trois côtés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme d'envergure côté palestinien, il n'y en a pas du côté israélien, et il n'y en a pas du côté mondial. L'ONU, là, franchement, c'est devenu, pardon, hein, mais un paillasson international. Mmh. Donc, c'est pour ça.
Biden, il parle à des gens, on les voit même pas. Il parle de Biden, il parle tout seul.
Non, mais Biden, on rigole et tout, mais c'est tu vois, je pense même, je me permets de le dire ici, que je pense que la voix, elle est féminine. Tu vois, par exemple, là, Rania, qui est ta cousine, oui, puisqu'elle est palestinienne.
On vient d'en parler avec Youssef. Pour moi, quand elle a parlé,
Youssef, c'est pas quelqu'un que Sally imagine. C'est non, notre cher auditeur des 30 Glorieuses.
Mon ami qui m'a coincé, prévenir ici.
Mais tu regrettes pas, Sally. T'inquiètes.
Bah, c'est la première fois que je sors de chez moi depuis 3 semaines.
Sally, écoute-moi, Frangine, je vais te dire quelque chose, c'est très facile pour moi. Si tu restes enfermé, c'est fini le confinement. Il faut que les Palestiniens s'approprient une parole, et je te jure, ils seront soutenus même par des Juifs. Il faut pas, tu sais,
ça, c'est pas un conflit religieux.
C'est la phrase la plus facile à sortir.
Enfin, moi, les gens qui m'ont envoyé des messages en premier, c'était mes amis juifs et des amis israéliens. Parce qu'il y en a qui sont contre ce qui est en train de se passer.
Et on voit aussi ces vidéos d'ultra-orthodoxes. Parce que quand on dit ultra-orthodoxes,
à chaque fois on les montre.
L'erreur de la France,
c'est que nous, on a le même problème. Tu n'écoutes pas ce podcast formidable qui est le nôtre. Mais tu sais, la situation qui se passe en Israël et en Palestine, c'est celle qui va arriver en France. C'est celle qui arrive. C'est la montée des extrêmes. Moi, depuis le début, mon point de vue, c'est que pour une fois, ça a pété très fort parce que c'est deux extrêmes droites qui s'affrontent. Une israélienne et une palestinienne. Et en fait, c'est la première fois que les deux, ils utilisent un jargon de la même manière. Les deux, ils veulent s'éradiquer. Tu vois, et le terme, avant, il n'existait pas dans le conflit israélo-palestinien. Éradiquer l'autre, je le dis pour ceux qui y écoutent, si vous parlez d'épuration ethnique d'un côté, que vous voulez vous exciter, n'oubliez pas que de l'autre côté, ils ont la même ambition. Moi, quand je regarde le Hamas parler en tant que musulman, je suis atterré. C'est d'une violence et tout. Ils disent faut enlever les juifs, on cessera pas. Là, j'ai vu tout à l'heure, ils ont dit il y aura un autre 7 octobre. Tu vois, balancer une phrase comme ça, ça met les Israéliens dans une posture défensive et inhumaine à l'égard des Palestiniens.
Ça porte préjudice à tout le monde,
ouais,
en fait.
Tu vois, et moi, je me suis dit tout à l'heure, moi, en tant que Français, si on m'avait dit il va y avoir un autre Bataclan incessamment sous peu, tu vois, bah, je serais devenu raciste. Vraiment, objectivement, même en tant que musulman, tu vois, ça a déjà été le cas quand je l'ai déjà, enfin, j'ai jamais dit, donc je peux le dire ici. Après les attentats du Bataclan, qui étaient pour moi très différents de ceux de Charlie Hebdo, ceux de Charlie Hebdo s'étaient ciblés, même si c'était horrible en tant que Français. Mais celle du Bataclan, c'est vraiment celle de la jeunesse, de l'insouciance, de la liberté. Tu sais, ils ont touché quelque chose qui nous fédérait. Charlie, évidemment que ça nous a affectés. Et je me souviens de grandes discussions avec des imams dans la communauté musulmane ici de dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on prie le même Dieu. Pour les journalistes ignorants qui ne savent pas, la vraie interrogation sur Allahu Akbar, ce n'est pas totalement faux parce que moi, en tant que musulman, à ma petite échelle, je m'interroge toujours de savoir pourquoi certains se l'approprient avant moi. Tu vois, vraiment, quand je vois, moi, des... Quand j'ai vu, tu vois, l'image qui a fait le tour du monde, d'ailleurs, cette jeune fille est morte, qu'ils ont mis dans le pick-up, et que l'autre écrit Allahu Akbar, ça me glaçait le sang en disant, mais non, mon frère, il n'y a pas d'Allahu Akbar, là. Enfin, c'est même pas mon frère.
Et nous aussi, en fait.
Mais, bien sûr, mais c'est pour ça que Sally, je vais te laisser témoigner encore, mais je veux juste te dire quelque chose. Je ne suis pas tout le temps le bon conseil. Tu sais, la Palestine, c'est méconnu en France. Si les Palestiniens ne s'approprient pas leur narratif, comme le font très bien les Palestiniens américains, mot amer que tu as vu, qui a fait un travail exceptionnel. Du coup, son meilleur ami, c'est Dave Chappelle. Donc Dave Chappelle s'est engagé. Et je voulais dire ici une dernière fois qu'on ne le fait pas à l'encontre des Juifs ou du peuple israélien, on le fait à l'égard de Netanyahou. Et vraiment, on gagnerait du temps à ce que des deux côtés, on vire ses gouvernants. Parce que Netanyahou, j'ai l'impression que les Israéliens ont pris de l'avance. Il lui reste peu de temps. Tu vois, là, ça commence vraiment à chauffer. Mais du côté palestinien, je dis pas que moi, c'est une dictature, c'est pas le terme. Mais le Hamas, il a une telle emprise physique et morale sur les Palestiniens que vraiment, objectivement, ils savent même pas par où commencer. Tu peux pas les déloger, il n'y a pas d'élection. Ils sont hyper structurés, ils sont hyper soutenus par d'autres choses. Et je le dis ici, en tant que musulman, quand le Libanais il dit il faut que les chiites et les sunnites, je le redis encore une fois, s'unissent, c'est clairement, le sous-texte, c'est pas les chiites et les sunnites, si je rencontre un Iranien, on va pas s'unir. C'est de dire le Hezbollah et le Hamas, vous travaillez ensemble. Et là, pour le coup, je le dis derrière ce micro, l'armée de Tsahal, ils vont être balayés. Hezbollah, c'est 40 000 hommes surentraînés qui se sont embrouillés avec Daesh. C'est pour ça que quand un journaliste français te dit, ou un homme politique, le Hamas, c'est Daesh, c'est pour ça, toi, en tant que Palestinien, tu dois dire, mais tu connais même pas, t'as même pas fait une recherche pour savoir que Daesh, les gens qui les ont battus, les seuls qui les ont battus physiquement sur le terrain, qui leur ont cassé la gueule, pas qui ont envoyé 40 000 bombes, parce que, mine de rien, la guerre qu'on voit actuellement, c'est quoi ? C'est Israël qui bombarde. Mais s'ils rentraient sur le terrain de Gaza, mais je pense que les mecs du Hamas les mangeraient tout cru. Mais c'est pas une expression. C'est que c'est des mecs qui vivent, qui dorment. C'est la guerre. C'est pas le fils de Netanyahou à Miami. Et tu vois, moi, quand je vois des Français, ça me fait de la peine, je le dirai samedi sur scène, des mecs de Saint-Mandé, de Sarcelles, des Français de confession juive, aller jouer à la guerre comme ils jouent à Counter-Strike. Et... torturer des Palestiniens pour rigoler, mais dire, mais mon frère, et vraiment lui, je l'appelle mon frère parce que j'ai grandi avec lui, sur la tête de ma mère que tirait tout seul à Gaza avec une mitraillette, si t'arriverait quelque chose, t'es pas prêt. T'as baissé les yeux toute ta vie dans le métro quand t'as vu un rebeu parler fort, et là, soudainement, parce que t'as un FAMAS, tu veux torturer. Et j'ai vu des choses, et je le dis parce que c'est important d'être dit, quand les djihadistes y sont revenus, c'est nous, les Français de confession musulmane, qui les avons écartés de notre communauté. On a dit... On n'a plus rien à voir avec toi, frangin. Tu allais faire des roulades à Damas. Maintenant, trace ta route. Et moi, de voir sur BFM des interviews de Français de confession juive m'expliquer qu'ils vont aller rejoindre clairement un génocide, tu vois. Et de dire, mais pourquoi tu vas là-bas? Tu dis ça avec fierté. Et je te le dis parce que je défendrai la France jusqu'au bout, mon pays, mais tu sais, la France, elle ne mesure pas ce qu'elle est en train de faire. C'est ça, Salih, faut que tu... je te jure, même si ça fait longtemps que tu vis ici, je te jure que même nous, Français, on est en train de se dire, il n'y a plus personne qui conduit la voiture. Tu sais, tous les jours, je reçois des vidéos de journalistes. Parce que moi, mon axe, c'est l'intramuros. J'ai pas de... Tu vois, je suis très ému par ton témoignage. Mais tous les jours, tu vois, même un mec comme Elie Chouraki, qui rigole quand on monte des Palestiniens qui souffrent, je me dis, mais moi, déjà, j'ai eu du mal. Je sais pas pour ceux qui ont vu les images. Quand j'ai vu les images, j'étais, mais...
Non, il rigolait sur les chorégraphies des
non,
soldats.
Non, il a rigolé quand il a vu les Palestiniens.
Ah oui, pardon, sur le sujet, ouais. Excuse-moi.
Et en fait, je me disais, mais il y a un gamin quelque part en France, et là, il y a des gens qui ont travaillé dans le social, qui sont des esprits fragiles, qui vont voir ça et qui vont splitter. Tu vois, les djihadistes, quand nous... Je te raconte ça. Moi, j'ai très, très, très mal vécu les attentats en France. Mais beaucoup plus que Thomas, pour des raisons évidentes. Et quand je lui ai dit, on va faire mon spectacle à Molenbeek, mon meilleur ami qui est mort, Karim Larahmo, qui vivait en Palestine, m'a dit, viens à Molenbeek. Et je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, tu ne bats le mal que par le mal. Il faut que tu viennes à Molenbeek et que tu vois les habitants de Molenbeek pour comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les djihadistes. Et avant d'y aller, j'ai vu le film Rocky IV, quand il dit « Je vais faire le combat à Moscou ». Vous vous souvenez de cette scène ? Et on arrive à Molenbeek, je te jure, avec Thomas, je le dis, c'est... on marche dans la rue de Molenbeek, et c'est pas faire offense à Molenbeek, parce que c'est que des gens magnifiques. On va pas de noir, pas de blanc. Pendant une heure, c'est beaucoup. Quand t'es à Barbès, à un moment, tu vas croiser des Blancs. Là, il n'y a pas que des Arabes. Et je dis, mais wallah, ils sont seuls, quoi. Tu vois, il n'y a pas de Blancs, quoi. Et d'un coup, je parle avec un mec de Molenbeek, je lui dis, mais tu ne vas pas à Bruxelles. Tu vas pas dans les autres communes. On me dit, non, nous, on ne sort pas de Molenbeek. C'est ici notre QG. Et en fait, pour aller au bout de ma comparaison avec la Palestine, moi, je lis beaucoup de tweets de jeunes Palestiniens qu'on m'envoie et tout. Et j'ai vécu une très mauvaise nuit la semaine dernière, vendredi, quand ils ont bombardé. Pardon, je t'en parle avec émotion. C'est ceux qui disent, en 18 ans, j'ai connu que la guerre. Et tu vois, ça, c'est là où tu réalises qu'ils n'ont pas d'autre sortie que de se marier avec le Hamas. Et de, il n'y a pas d'issue, tu vois. Et mon meilleur ami qui est décédé vivait en Palestine. Et je te raconte l'histoire parce qu'il faut toujours sortir du tragique par le comique. Mon meilleur pote, Karim Larahmo, était très engagé sur la cause palestinienne. C'est pour ça que je le suis, et d'autant plus depuis qu'il est mort. Et à chaque fois, il me disait, je vais aller vivre là-bas avec nos frères opprimés et tout. Je disais, mais t'es un ouf et tout, va à Dubaï. Il me disait, non, moi je vis là-bas. Et tous les vendredis, il y avait
Sinaï.
Le mont Sinaï, à côté de Jérusalem. C'est le mont des Oliviers.
Des Oliviers.
Merci. Le Mont des Oliviers, tous les vendredis, il y a une manif après Salat Jumu'ah. D'accord, tu connais cette manif, n'est-ce pas ? Et Karim, il a été. Et je peux te dire, avec Thomas, c'est l'un de nos plus grands fous rires. Larahmo. Et il me montre la vidéo, il me dit, tous les vendredis, je manifeste, je suis pas comme toi avec ton gros cul à Paris. Je dis, oh là là, la flemme et tout. Il me disait, viens, je lui disais, pas du tout, j'ai pas du tout envie d'y aller et tout. Et tous les vendredis, il allait manifester. Et pourquoi je te dis, j'ai rigolé ? C'est qu'il était très pro-palestinien, vraiment, et tout. Il me disait, je mange avec les frères, je dors avec eux, et tout. Et moi, il m'envoyait des photos, j'étais gêné, parce que je me disais, il n'y a pas un hôtel 5 étoiles, jamais je viens. Et il y va, écoute-moi, Salih, tu vas pleurer de rire. Les Israéliens, l'armée israélienne, tous les vendredis, ils tirent à échelle d'homme une roquette. D'accord ? Vous parlez des roquettes. Mais ils tirent une roquette dissuasive. Normalement, on tire en l'air. Mais en Palestine, n'est-ce pas, ma chère Salih ? Et Karim, il y avait 150 personnes, il monte la vidéo, il lui tire dessus. Ça veut dire première manif, roquette. Donc il se mange la roquette, il tombe. Mais lui, c'est un Français. Il dit « Ah, appelez l'ONU !» Il dit que de la merde et tout. Et le Palestinien lui dit, pourquoi moi je l'aime d'amour même s'il manque beaucoup, le jeudi d'après, il dit « Karim, Habib, demain, manif. » Karim dit « Ah, flemme là un peu parce que la semaine dernière. » Et je crois que dans cette anecdote, et pardon, je vais pas pleurer, il y a toute l'histoire de la cause palestinienne qui est racontée. C'est que c'est en fait, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Les Palestiniens, tous les vendredis, quelle que soit la météo et tout, ils vont manifester tous les vendredis. Et ils reviennent le vendredi. Et la mort, ce que m'avait dit Karim Larahmo, fait partie de leur vie. Donc il m'a dit, c'est pour ça qu'on n'est pas des bons militants. Il me dit, est-ce que toi, t'es prêt à mourir pour une cause ? Et la vérité, la plupart d'entre nous, à part FIFA, non. Et en fait, je me dis, c'est ça qu'il faut que, Sally, tu racontes, c'est de dire, et je crois que ce podcast t'a beaucoup aidé, tu viens de faire avancer plus la cause journalistique française en un témoignage que tout ce que j'ai vu ces trois dernières semaines. Merci, Sally.
Merci, Sally.
On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Merci, Sally. On va s'échanger les numéros. Je vais te mettre en contact avec des journalistes qui font bien leur boulot. Vous êtes magnifiques, mesdames et messieurs. Les podcasts sont très éprouvants ces derniers temps. On est joignable sur Instagram. C'est notre seule adresse. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Mais Sally, tu n'es pas seul. Sors, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour inviter Sally et Youssef à dîner.
Sally, juste, j'ai un truc à te dire parce qu'il y a un glorieux qui loue la salle ici ce soir au 82, juste après notre podcast, et qui travaille avec des Palestiniens et qui m'a dit que les jeunes, depuis quelques semaines avec les réseaux sociaux, se sentaient pour la première fois citoyens palestiniens, alors que la Palestine n'est pas un pays officiellement. Est-ce que toi, tu sens, avec cet engouement, est-ce que toi aussi, tu as un peu le même sentiment? Tu sens que ça n'a jamais été aussi relayé? Et il n'y a jamais eu aussi autant de solidarité sur les réseaux sociaux?
Moi, je parle quatre langues, donc je regarde Haaretz en hébreu, je regarde des journaux français, après je regarde des journaux en arabe, après je regarde en anglais. Et l'info se dilue, je crois que c'est seulement en français, tellement délicat pour arriver à la France, que même si beaucoup de gens me disent « Regarde, il y a eu telle vidéo, regarde, il y a eu tel journaliste », je reste très inquiète, vraiment très inquiète de la façon dont les médias transforment le narratif. Il y a eu des gens... fabuleux qui en parlait. La reine Rania, quand elle a parlé, elle a vraiment crevé un abcès, on n'en pouvait plus. Mais j'ai vraiment peur parce qu'il ne vous parvient même pas 3% de ce qui se passe. Et tout est fait pour que tous les Palestiniens soient labellisés comme des terroristes qui soutiennent le Hamas, ou encore pire, des victimes du Hamas. Et ce que j'expliquais tout à l'heure à une amie, c'est que le Hamas, c'est un non-sujet pour nous. Qu'ils crèvent tous, vraiment, pas de problème. Dans deux semaines, il y aura un autre parti politique.
Bah ici, tu seras toujours la bienvenue, en tout cas.
Merci, Sally, merci. À demain.
Bisous.
Les 30 Glorieuses.
Les 30 Glorieuses, à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.